On ne va pas se mentir, avec Baya Carla et sa bande, tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous et bienvenue dans On va pas se mentir. Très chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver ce samedi comme chaque semaine de 15h30 à 17h. La France éliminée de la Coupe du Monde face à l'Espagne. Alors que nous étions si proches de la finale, le conseil municipal d'Ivry-sur-Seine veut donner 46 000 euros au Mali ou encore Marine Le Pen candidate. Nous allons parler de tout ça dans quelques instants. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Ça va Elliot?
Oui et vous?
Oui, vous êtes heureux d'être là?
Toujours.
Pas trop chaud?
Non, ça va, j'ai la clim.
Petit t-shirt, très sympa.
Ça va, il est quand même classe, non?
Ouais, ça va, bon, c'est voilà. Classe. C'est un tige classe.
Exactement.
C'est pas mal, sport chic. Armand, comment ça va?
Et vous, courte nuit, longue journée, mais heureux d'être là.
On peut le voir à vos yeux. Là, c'est...
Ouais.
Je peux vous conseiller un très bon anti-cerne si vous le souhaitez.
Non, ça ira, je pense qu'une nuit de sommeil suffira vraiment.
Je pensais que c'était la vieillesse.
Non, c'est juste...
L'émission vient de commencer, mais ça commence déjà à attaquer.
Sympa,
mais très
sympa.
Belle veste, en tout cas.
Moi, je pensais que c'était encore autre chose, pas la vieillesse, mais encore autre chose.
Alors, on arrive... Alors vous, aucune... Vous m'avez copié, là?
Oui, je sais pas.
C'est original.
On dirait qu'on travaille chez Figaro tous les deux, là.
Vous me demandez pas si ça va?
Si, bah, on était ensemble juste avant, une soirée très sympathique.
Oui, très sympa, oui. Oui. Je suis très content d'être là, vous savez. Parce que je vous écoute, moi je vous écoute quand je ne suis pas invité.
Voilà,
je l'ai placé.
Je l'ai placé, voilà.
Et en plus que vous avez dit que c'était une émission sérieuse la semaine dernière. Quand
oui.
Il y avait André Berger.
C'était sérieux, ça.
Oui, mais quoi, ça veut dire que
vous étiez pas là.
Oui. Voilà, c'est-à-dire quand je suis pas là, c'est pas sérieux, c'est ça.
Sous-entendez, Elliot.
Quand vous êtes là.
Oui, il y a un conflit là.
Je suis là, c'est pas sérieux, j'ai l'impression.
Vous voulez pas arrêter ça après l'émission sinon, parce que... On a juste une émission à mener, les gars.
Bon, en tout cas, vous avez une très belle chemise.
Merci.
J'aime beaucoup la couleur.
Vous aussi.
Merci beaucoup. Bon, en parlant de chemise, on va parler... Ça, c'était très simple comme transition. On va parler de mon coup de cœur d'aujourd'hui. C'est la taxe fast fashion. Alors, c'est un anglicisme, mais on peut traduire ça de...
La taxe...
Vêtements rapides.
Vêtements rapides. Non, vêtements pas chers.
Vêtements pas chers. On dit souvent que rien n'arrête Chine et Temu. Eh bien si, la France vient de leur mettre un coup d'arrêt et c'est mon coup de cœur de la semaine. Après des mois de bataille, le gouvernement a enfin décidé de faire payer le vrai prix à cette mode jetable, cette fast fashion qui inonde nos boîtes aux lettres et nos décharges. Un t-shirt à 3 euros, un jean à 5 euros, cette folie va enfin coûter cher à ceux qui la fabriquent. David, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que vous êtes consommateur de fast fashion, vous?
Non, pas du tout. Et on est encore une fois ridicule. Donc la France, en fait, dit...
L'Europe.
Ah, l'Europe. Non, mais c'est pire. C'est pire. C'est bien. Donc l'Europe dit, ouais, nous, on va s'attaquer au premier exportateur...
Chinois.
Ouais, au Chinois, premier exportateur mondial. Mais à part ça, tout va bien. Avec notre petite loi, etc. Ça va être encore une fois contourné. Ça va être encore une fois... les gens, ils vont trouver d'autres moyens de les mettre dans les colis, etc. C'est nul.
Moi, je vais vous dire, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas.
Il y avait la taxe à 2 euros, là.
C'est déjà un pas. Alors, ça va peut-être être plus supporté, effectivement, par les consommateurs, plus que par les fournisseurs et les fabricants. Mais je trouve que c'est déjà une bonne chose. Moi, j'en ai assez de voir des influenceurs sur les réseaux sociaux qui font la promotion de paniers Shein. Voilà, ils dépensent 100 euros. Ils ont plein de tissus qui sont... D'ailleurs, c'est des vêtements qui sont faits par des enfants. En plus, c'est même pas de la bonne qualité. On est dans une surconsommation.
Votre chemise?
Elle est faite en France.
D'accord.
Ça, c'est français. C'est un
textile mélangé de coton et de lin.
Bah voyons.
Non,
bah,
non, voyons. Mais si. Moi, alors moi, vous savez quoi, je suis un très bon exemple. Parce que moi, j'ai un jean, ça fait 10 ans que j'ai le même. Ça fait 10 ans. Alors, je l'ai payé certes 800 euros,
bah, voilà.
Mais j'ai le même. Et j'aime bien avoir des vêtements. Et d'ailleurs, Armand, vous connaissez un peu mon dressing. Je sais pas pourquoi.
Parce
que c'est mon meilleur ami. Pour les auditeurs qui ne le savent pas, on se connaît depuis longtemps. Mais vous savez que.
Charles appréciera.
mais vous savez très bien que voilà, moi, j'aime bien avoir quelques vêtements de bonne qualité. Je les raccommode s'ils s'abîment. Mais je suis vraiment contre cette surconsommation des masses. Je trouve ça complètement. Et puis, c'est une course, en fait, à tout. Des nouvelles tendances, des nouvelles collections sans cesse, ça consomme une tonne d'eau, c'est de la mauvaise qualité, les gens sont mal habillés, vous allez dans la rue, c'est une catastrophe, ils sont tous habillés made in China, donc voilà, moi je trouve ça, vous me faites rire.
C'est
là,
en Chine, en France.
Il est où le cochon?
Vraiment, regardez,
Non, parce que je suis absolument d'accord avec vous, moi je partage votre avis sur les conditions d'abord dans lesquelles ces vêtements sont fabriqués, qui sont totalement désastreuses, le coût social que ça a aussi sur les populations qui sont impliquées dans ce genre de...
C'est,
qu'on peut appeler trafic, ouais, tout simplement, hein. C'est un un trafic de la fast fashion. Moi, je vous rejoins totalement là-dessus. L'autre point, moi, j'ai découvert un truc qui s'appelle Vinted. Alors, je suis très en retard, peut-être.
C'est très bien, Vinted.
Je suis peut-être très en retard. Et au final, c'est pas si mal. Moi, j'avais beaucoup de mal avec les vêtements déjà portés. Donc, ouais, c'est toujours
ce côté. Je pensais que vous alliez dire des vêtements à votre taille.
Je ne répondrai pas à cette attaque. Vous qui avez le même jean depuis 40 ans. Non, mais j'ai
mais c'est très bien la seconde main.
Je pense que voilà, exactement, il y a des alternatives.
Qu'est-ce qu'il est lourd.
Il y a des alternatives qui existent, qui sont à portée de main. Il y a aussi tout ce qui est friperie et autres.
Upcycling, je ne sais pas comment on dit.
Je ne sais pas ce qu'il y a.
C'est des vêtements qui sont recyclés et qui ont une seconde vie. Non, parce que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a des vêtements qui sont. Les tissus sont réutilisés pour faire d'autres vêtements. Et moi, je trouve ça très bien. On a tellement déjà de vêtements sur Terre qui sont fabriqués. Utilisons-les plutôt que de continuer. Moi, ce qui m'inquiète par contre, c'est que. Cette nouvelle taxe ne concerne pas Zara, H&M et Uniqlo. Alors pourquoi, je sais pas, il doit y avoir des accords avec les gros groupes, Kaby, Decathlon, Carrefour, ils sont pas concernés. Elliot.
Moi j'ai deux points déjà sur ça. Alors le premier, laissez Uniqlo tranquille s'il vous plaît, les Japonais on les aime. Hein. Alors déjà le problème moi sur ce truc, pour revenir à ce que disait David, c'est déjà on avait mis en place la taxe à 2€ sur les petits colis. Mm-hmm. Je sais pas si vous vous souvenez.
Ouais. Oui, très bien.
Ouais, elle a duré 2 mois.
Merci, voilà, ridicule.
Ensuite, on a l'Europe qui est venue et qui a dit on va faire quelque chose de mieux. Alors, on va mettre 3€. Donc, on était à 2€, on passe à 3€. Sur, bien sûr, 3€ sur chaque type de produit qui est dans un colis. Donc, c'est-à-dire que si vous
c'était
avez.
C'était au poids, non? C'était pas au poids?
Non, non, là, c'est par exemple, vous décidez d'acheter une paire de baskets, vous avez 3€ de taxes dessus, en plus. Vous achetez un t-shirt en plus, vous avez encore 3€ de taxes. Donc, ça veut dire que vous achetez par exemple un panier à 50€ hors taxes. Vous avez 6€ parce que 3€ par catégorie. Donc ça fait 6€ de taxes. Et après, vous avez la TVA qui vient dessus. Donc on est. C'est-à-dire qu'avant, c'était déjà compliqué d'acheter des habits quand c'était pas fait par Temu ou Chine. Là, ça va être encore plus cher que des habits qui sont en France.
Bah c'est très bien, ça incite les gens à acheter français. Alors attendez,
parce que vous m'avez coupé, c'est même pas ça le problème. C'est-à-dire que.
Mais le pouvoir d'achat, mais non, mais regardez la répartition des dépenses des Français.
Mais non, mais le problème qu'on a, c'est que c'est pas que c'est cher ou c'est pas cher, c'est qu'aujourd'hui, une chemise qui est faite en France coûtera toujours plus cher que n'importe quelle chemise qui est faite en Europe.
C'est un problème qui est multifactoriel. Voilà, c'est déjà les taxes qu'on impose à tous les métiers, tous les salariés, etc. qui sont dans le textile et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais le souci, c'est qu'il faut rééduquer les Français sur leur manière de consommer. Ils vont acheter français
parce qu'on leur met des taxes sur des colis.
Mais bien sûr que oui, au fur et à mesure du temps, c'est un petit pas vers quelque chose de.
Mais jamais d'accord. La seule chose qui est bien dans cette loi, c'est qu'ils interdisent aux influenceurs justement de faire la pub.
Ah, vous avez travaillé, c'est bien.
Bah oui, pour une fois.
Et là, je ne sais pas si vous avez vu les lunettes d'Alloz de Macron.
Ah bah qui ont fait faillite. Voilà. Bravo, merci Macron.
Non mais
vous avez des réactions extrêmement françaises, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est fait, vous râlez, que rien n'est fait, vous râlez. Donc à un moment donné, il faut choisir. C'est un petit pas. Moi, je suis d'accord avec Bayard. En fait, en même temps, heureusement qu'on agit, heureusement qu'on prend aussi en conscience certains sujets. Vous parliez d'un panier à 50€ ou 60€ avec les taxes. À quel moment donné on peut se faire un dressing à 50€ déjà? Rien que dans la logique, il y a quelque chose qui va pas.
Ce que j'ai dit, pouvoir
faire un dressing complet à 50€, ça ne va pas.
Mais on fait pas un dressing complet à 50€.
Vous venez de me dire qu'avec 50€, on peut avec plus la taxe de 6€, on peut s'acheter 3, 4, 5 vêtements. Ce qui est déjà anormal. Bah pour 50€, avoir 4, 5 vêtements, c'est anormal. Cependant, je rejoins David sur un autre point, c'est le pouvoir d'achat, effectivement. Il y a certains Français qui ont beaucoup de mal encore à pouvoir se vêtir correctement et autres. Cependant, la fast fashion, ça consiste en fait à changer ses vêtements très très régulièrement. C'est là où Baya a raison.
Mais vous avez vu les influenceurs, c'est une catastrophe. Ils incitent tout le temps, à chaque trimestre, à chaque saison, ils incitent les consommateurs
les mois,
à acheter.
Tous les mois.
Tous les mois.
Je peux poser une question? Tout à l'heure, vous parliez de pourquoi il n'y a pas ça, Uniqlo, Zara, etc., les autres. Quelle différence entre quelque chose qui
boutique
a été fait...
physique.
Comment?
C'est parce qu'ils ont des boutiques physiques.
Non, mais
on a
dire,
vu ce
gens...
que ça a donné Chine au BHV.
Mais je veux dire, quelle différence d'aller acheter sur Chine alors que c'est
d'ailleurs,
fait
d'ailleurs, BHV qui va devenir un hôtel, si
c'est
vous
vrai
intéresse, je suis bien informé.
Ah oui. Voilà, qui va devenir...
J'ai investi.
Je peux terminer?
Désolé.
Non, mais c'est pour dire qu'on l'achète sur Chine ou Zara, c'est la même chose. Les gens, ils se disent, mais si, Si, ça vient des mêmes ateliers, c'est fait, c'est les mêmes tissus, c'est la même chose.
Il y a des normes supplémentaires, quand même. Il y a des supplémentaires qui sont appliquées pour les pour Zara et Uniqlo et autres.
Parce que tu crois, oui, bah, franchement, avec le pouvoir d'achat qu'ils ont, tu crois que les gens ils font la différence.
Je dis pas que ces normes sont suffisantes, mais il y a des normes supplémentaires.
Non. Bon, les fashionistas, on va passer à un autre sujet. Elliot, vous n'avez pas passé une bonne soirée mardi soir?
Non, on a perdu. La France a perdu. La France n'a pas joué, parce qu'elle a pas, elle a perdu, mais elle n'a pas joué. Alors, j'adore cette équipe. Elle a fait un parcours. Pas exceptionnelle, elle a fait un bon parcours parce qu'elle n'a pas affronté non plus des grandes équipes.
Hormis
le Maroc, exactement. Elle a eu le Paraguay qui était compliqué. Et en fait, on voit la limite d'une équipe contre des individualités. Et on a perdu. J'ai passé la pire soirée de ma vie, c'est-à-dire que j'étais avec mes potes en train de me dire « On joue vraiment un match de demi-finale ou est-ce qu'on est sur un match amical ?» Et en fait... on comprend que c'était la dernière de Didier Deschamps, qui était assis, affalé, qui était dépité, et ça m'a fait de la peine pour lui. On a vu une équipe avec des individualités nulle part. C'est-à-dire que des individualités au milieu de terrain, ça ne sert à rien. D'ailleurs, il n'y a pas de milieu, sauf Rabiot, qui sort à la mi-temps. Donc, c'était dramatique. Et je me dis qu'on va se contenter potentiellement d'une petite place de troisième. Ça fait un peu de la peine quand on voit... tous les joueurs, toutes les stars qu'on a et le potentiel qu'on avait, même s'ils ont fait un très grand parcours.
Armand, vous avez regardé le match hier?
J'ai regardé le match mardi et je suis absolument d'accord avec Elliot. Très très belle équipe, sur le papier, la meilleure équipe je pense de ce mondial,
avec les meilleurs joueurs du monde.
Avec les meilleurs joueurs, la meilleure équipe sur le papier. Malheureusement, face à l'Espagne, effectivement, ce match était déjà catastrophique. Très long, trop long et très lent. Moi j'étais extrêmement déçu par ce match. Bien évidemment, on supporte les Bleus jusqu'au bout et c'est quand même un beau parcours. On arrive quand même aux demi-finales.
Ah oui.
C'est pas, voilà. Le parcours a quand même réussi. Très déçu
trois
pour
fois de suite surtout.
Ouais, très déçu pour Didier Deschamps aussi. Assez triste pour Didier Deschamps pour sa dernière effectivement Coupe du Monde. Autre point, c'est les propos notamment de politique étranger.
On va en parler après.
Très bien, bon, on gardera ça pour après. En
David,
tout cas, j'étais très choqué par
vous n'êtes
ces
pas
propos.
Très foot vous.
Je suis pas très foot. Très déçu, c'est-à-dire que je parlais et tout, moi je pensais que ça allait couler, que je parlais, je me suis dit je vais voir des buts de la France.
Bah pour moi ça allait être France-Argentine.
Ouais voilà, en fait ça allait, et j'étais
c'est
tellement
vrai.
Surpris
ouais,
comme pour tout le monde,
qu'à la fin je me suis dit, mais en fait il y a eu tellement de, je vais pas dire de négativité autour, mais c'est exactement ce que tu as dit, au-delà de ce que l'a dit là, c'est une politique qui est quoi
qui est paraguayenne.
Paraguayenne.
Et la sénatrice paraguayenne
le décès
et le
de la mère de Didier Deschamps.
Il y avait une mauvaise énergie.
Ouais, voilà, il y avait une mauvaise énergie.
C'est vrai que cette année, j'ai pas l'impression que la Coupe du Monde ait été quelque chose d'incroyable comme les autres années.
L'ambiance était catastrophique.
Les gens n'étaient plus dans les bars. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est l'ambiance générale.
Ça va, la chaleur.
Franchement, ça va, la chaleur. 2018, c'était aussi.
Attendez, vous faites la chaleur. Vous faites les matchs à 21h30, à 22h, 23h, 3h du matin. Je suis désolé, vous allez. Il y a qui reste déjà.
Le problème, c'est encore les Américains finalement.
C'était à 21h de quoi tu...
Non mais hier?
Oui.
Non. Alors déjà c'était mardi. Donc non, c'est le match était à 21h, oui. Les demi-finales étaient à 21h, mais tous les matchs d'avant où tu prends, où tu rentres dans la compétition, où tu regardes les choses, 23h.
Ouais, parfois.
Avec des mi-temps de 1h. Des mi-temps de 1h avec du temps additionnel de 5, 6, 7 minutes, une pause au milieu, tu fais des mi-temps d'1h avec. Il suffit que tu ailles en prolongation.
Ok, mais ça explique pas que les Français, ils ont pas envoyé leur énergie à Dallas. Ça va.
Non, c'est pas une question d'énergie. Je pense que, comme d'habitude, on était sur le papier donné gagnant.
Ah oui.
On est arrivé.
Pour vous, on était trop.
Plein de certitudes. Comme avec l'Euro contre les Espagnols, ils sont arrivés, ils nous ont mis 5-4. On est rentré chez nous. Là, on a pris 2-0. On est rentré chez nous. Il y a des faits de jeu. Il y a l'arbitre qui n'était pas excellent. Le terrain aux États-Unis n'est pas excellent.
Ce qui s'est passé avec le.
Non, mais il y a plein de choses. Mais c'est la Coupe du Monde.
Vous avez vu passer aussi tous ces propos racistes envers un des joueurs.
Vers Lucas Digne,
ouais. Vous êtes choqué, Armand?
Bah, de tous les propos qui ont été tenus et qui ont été racistes durant cette Coupe du Monde, que ce soit ceux qui ont été effectivement proliférés par la sénatrice paraguayenne, par l'ancien Premier ministre espagnol, par effectivement sur Lucas Digne aussi, sur les réseaux sociaux, il y a un déchaînement que personne, pour le coup, en l'occurrence, personne n'a dénoncé. Effectivement, c'était assez choquant comme propos.
Armand, je suis Kylian ou pas?
Je suis Kylian. Bah, je suis Kylian, oui, je suis français en fait, avant tout.
Bravo.
Mais moi, je suis d'accord avec un truc aussi, c'est il y a une élite qui était contre la France pendant cette Coupe du Monde, qui était contente que la France, moi je l'ai vu dans certains, j'ai certains amis, qui étaient contents que la France perde hier, enfin mardi. Et Et je trouve ça, il y a un manque de patriotisme. Il y a un manque de patriotisme. On est une équipe, on va en Coupe du Monde. C'est quelque chose qui est vu
et
dans le monde entier.
Il y a un manque de ferveur de la part
des supporters.
Il y a un manque
de ferveur. Et puis même, on peut pas rentrer, on peut pas, même le nombre de personnes qui se sont déplacées, on peut pas y aller à 6, 7, 8 000 euros pour aller voir un match de demi-finale. C'est indécent.
Il y a des influenceurs qui ont la chance de pouvoir y aller.
Bah oui, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours des gens qui vont là-bas pour faire des vidéos. On en a marre.
Créatrice de contenu.
Vous imaginez quand même aller à Dallas et rester à Dallas? C'est quand même horrible.
Vous voulez chanter, Armand?
Non,
Jean, mais je sens que vous avez envie de faire le jingle.
Allez, ton univers impitoyable. David, vous aviez un coup de gueule.
Oui.
Les Sénateurs ne bossent plus après le 14 juillet. Ah non,
oui.
C'est votre coup de cœur, pardon.
Oui, c'est mon
excusez-moi,
coup de
je trouve ça tellement grotesque que pour moi, c'est un coup de gueule.
Mais non, vous allez voir, je vais vous faire changer d'avis.
Ah bah allez-y.
Ah bah j'ai hâte.
Et donc, je vous attends au tournant.
Des gens qui bossent moins, j'ai hâte.
Oui. Un certain Maxime Saada, PDG de Canal+,
oui.
Vous connaissez?
Oui, très bien.
Lors d'un colloque au Sénat, a dit « travaillez moins ». Il a dit au sénateur « travaillez moins ». Et il faut qu'on soit d'accord avec lui. On refait un peu le contexte. Là, ça va être les élections sénatoriales à la rentrée, donc ils sont en campagne. Donc il y a seulement 100, sur 348...
178.
Ouais, exactement. Sur 348 sénateurs, seulement 178 là, sont en campagne. Concrètement, quel est le problème? On a des parlementaires à qui on a enlevé des pouvoirs qu'on a dévolus à la Commission européenne, ce qu'on appelle la subsidiarité, les droits de douane, le commerce, etc. Okay, donc comment on leur a dévolu, on a dévolu ça à la Commission européenne, donc voilà, ça leur fait moins de pouvoir. Et puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle le non-cumul des mandats, ça veut dire qu'ils sont plus sénateurs-maires, ils sont plus députés-maires, ils sont plus en lien avec le réel. Donc vous avez plus rien au-dessus, vous avez plus rien en bas. En fait, il faut occuper ces gens à tel point que en janvier 2025, écoutez bien, donc une proposition de loi socialiste à l'Assemblée nationale a voté sur les pannes d'ascenseur, les interventions, les conditions d'intervention.
Parlez dans le micro, David, on ne vous entend pas.
Les interventions sous 2 jours, répartition sous 8 jours, astreinte jusqu'à 1000 euros en commission, etc. Stock de pièces obligatoires, etc. Voilà où on en est. Ça veut dire que l'Assemblée nationale et le Sénat, voilà, ne servent plus à rien parce que ces gens-là ne sont plus au contact des Français. Ça veut dire que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est lié, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus au contact du réel, ils ne savent plus ce qui se passe, le prix à la pompe, etc. Donc ces gens-là, comme dit Maxime Saada, il faut qu'ils travaillent moins. Donc concrètement, en fait, il faut trouver quelqu'un qui ait le courage de dire « Écoutez, on arrête tout ça, que ce soit la Commission européenne, que ce soit le non-cumul des mandats, d'accord, il faut que le Parlement retrouve ses pouvoirs et puis qu'on légifère vraiment sur ce que doit légiférer le Parlement. » C'est-à-dire que concrètement, quand vous avez des gens comme Agnès Verdier-Mouligny qui vous disent c'est pas normal qu'il y a plus 53% du code de l'environnement qui a augmenté, plus 17 000 mots en un an pour le code de l'environnement, la santé publique, pareil, le code du travail, pareil.
Ça, c'est du charabia pour
non,
les gens.
Non, c'est pas du charabia. Le volume des codes, c'est pas du charabia. C'est concret. Parce que ces gens-là, en fait, votent des choses qu'ils ne devraient pas voter, ce qui ne relève pas de la loi. D'accord. Ce qui relève parfois du règlement.
Vous êtes en train de dire
qu'il faut les occuper.
Il y a 356, je crois. 348 sénateurs qui ne servent à rien pendant 9 mois de l'année. C'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Alors,
et qu'on paye avec nos impôts.
Je vais vous raconter.
Pour rien faire.
J'étais assistant parlementaire d'un député de l'opposition et qui me dit un jour, tu sais David, un député ne sert à rien. Un député de l'opposition sert à moins que rien. Donc un assistant parlementaire d'un député de l'opposition sert à 3 fois rien. Donc oui, un député aujourd'hui n'est plus...
Non mais là on parle d'un sénateur. Mais
député et sénateur c'est la même chose, oui. Puisqu'on a tout dévolu à la Commission européenne, la fameuse subsidiarité, et puis ils sont plus au contact
donc
du réel.
Donc on a un État sans tête.
Exactement.
Bravo. Bon bah
exactement.
Voilà, bah on a réglé le problème. Voilà. C'est où est le problème? Qu'est-ce qu'on fait?
Comment c'est très simple.
Ils vont pas avoir le droit.
Attendez pas tous en même temps.
Bruno Retailleau l'a dit. Bruno Retailleau. Moi, j'aimerais dire que je défends la démarche de Bruno Retailleau d'être entré au gouvernement. Ah oui. Parce que Bruno Retailleau. 2 secondes. Bruno Retailleau a été pendant des années sénateur, d'accord. Donc, il a fait plein de commissions d'enquête, mais il a eu raison d'y aller parce qu'il voulait mettre les doigts dans les fils. Il voulait voir ce qui se passait à l'intérieur et il a vu. Il a vu.
Il s'est électrocuté.
Hein? Ouais, il a vu, il s'est électrocuté. Et il a
dit. Du coup, maintenant, il veut se présenter.
Non, exactement. Et il a dit, on est obligé de changer la Constitution. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve quelqu'un qui ait le tempérament de dire, on change la Constitution, sinon on va devoir changer de régime. C'est aussi simple que ça, parce que c'est pas juste une loi, un décret, un arrêté, ceci, cela, etc.
Armand, je vous vois vous agiter et ensuite.
Qui va changer les choses.
Je m'agite pas.
Donc mais c'est changement de régime.
J'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre votre combat. Vous étiez peut-être avec un député qui était inactif et peut-être pas très bon en politique, mais il y a d'autres députés qui sont très bons et qui, dans l'opposition, font énormément de travail législatif. Le travail, il n'est pas uniquement législatif et de légiférer. Il y a d'autres travaux, c'est-à-dire s'emparer de sujets, de promouvoir certaines causes, promouvoir des sujets. Un député, c'est pas que légiférer à l'Assemblée et faire des votes à 4 heures du matin sur le budget. Il y a quand même tout un autre travail qu'il y a derrière. Moi aussi, j'étais avec un député de l'opposition, Daniel Fasca, le maire du Touquet, que je salue, et qui faisait un travail exceptionnel, notamment sur l'autisme, par exemple, des causes qui n'étaient pas forcément débattues à l'Assemblée ou autre, mais dont il s'emparait, dont il faisait la promotion. Donc il y a quand même un autre travail. Quant aux sénateurs, bah, on leur reproche de ne pas travailler là, du coup, je ne comprends pas. Vous leur reprochez de ne pas suffisamment travailler ou de trop travailler sur des broutilles.
David. Exactement, exactement. Il faut qu'ils s'arrêtent de légiférer. Parce qu'ils produisent des normes qui ne relèvent pas du fameux article 34, mais qui relèvent parfois du règlement. D'accord. Donc Agnès Verdier-Mouligny arrive avec trois codes Dalloz en 2025 dans une interview avec Gilles Boulot en disant « Monsieur le Président, vous nous aviez promis la simplification avec Édouard Philippe, quid ?» Voilà, et elle arrive avec des codes. Et Emmanuel Macron répond très justement « Moi je suis président de l'exécutif. Donc moi j'ai demandé à mes administrations, ce qui est vrai, moins de circulaires, moins d'arrêtés, etc. Ce qui est vrai, je suis parti regarder viepublic.fr, etc. Il y a moins de normes. » Et il dit, moi je suis pas responsable du Parlement. Mais est-ce que vous vous rendez compte, président de la République, il dit, je ne suis pas responsable de ce que le Parlement.
Il est responsable
vote.
De rien.
Mais merci.
Mais il est jamais responsable de quoi
exactement.
Que ce soit.
Exactement. Et ben il est là le problème. Il est
David,
là le problème.
Je comprends pas trop où vous voulez en venir parce que j'en veux en venir.
Non, qu'il faut qu'il y ait quelqu'un, qui ait le tempérament nécessaire pour dire, on arrête.
Pourquoi ne pas les faire travailler?
Mais justement, mais non, on peut pas les faire travailler parce que les faire travailler, ça veut dire voter sur des choses dont ils n'ont pas la légitimité puisque on a dévolu.
Alors, si je résume, pour qu'on soit bien tous d'accord, David, il y a des mecs et des femmes qui bossent toute l'année, enfin 9 mois par an, pour bosser sur des trucs où ils n'ont pas la légitimité de bosser dessus, voilà. Ils sont payés avec nos impôts, et en plus, ils ont 3 mois de vacances.
Le résumé.
C'est ça.
Bah oui.
Et en plus, ils ont un mec tout en haut qui leur dit « c'est pas mon problème ».
Exactement. Exactement. Et tout est sourcé, tout est là.
Et en plus de ça, on a une autre chambre où ils sont là en train de se mettre sur la gueule parce que l'autre, il est pas content d'une loi, donc il gueule et en face, ils sont pas contents. Donc en fait, il y a personne qui bosse dans ce pays,
non,
c'est ça.
Non, mais si, le Sénat, il produit quand même des commissions et des rapports qui sont souvent très pertinents et assez intéressants
Non, 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 non. Excuse-moi. Armand, c'est faux.
Ah,
c'est faux. Explique-moi alors pourquoi Bruno Retailleau rentre au gouvernement dans ce cas.
Parce qu'il voulait se faire mousser.
Non, il avait besoin de mettre les doigts dans les fils. Il a vu, il a dit, moi je vidais la mer avec une cuillère. Faut écouter, non mais tous ces gens-là qui étaient ministres, etc. Non, mais ils passent dans des podcasts.
Bruno Retailleau, on l'adore.
Et si demain je te propose un poste de serveur, un poste de direction, tu choisis lequel? Tout simplement.
Mon problème avec tout ça, juste pour clôturer, désolé Bayen. Mon problème avec tout ça, c'est pas qu'ils bossent sur des choses qu'ils doivent pas légiférer. C'est que ils sont toute l'année là, ok. Ils sont toute l'année assis à rien foutre, ou
c'est
alors
vrai,
à faire
c'est
des
vrai,
ou
vrai,
à faire,
d'accord,
ou à faire des lois, ou à voter des lois. En vrai, on va pas se mentir. Ils votent des choses, ils renvoient des choses à l'Assemblée, qui sont après retoquées par le Conseil constitutionnel.
Merci. Voilà.
À quoi ça sert de prendre des vacances si déjà toute l'année ça sert à rien ce qu'ils font?
Donc on fait quoi, on supprime le Sénat?
Bah non, mais
non,
donc
il faut qu'il y ait quelqu'un qui tempère.
On change les constitutions. La constitution, c'est pas possible.
Plus le Conseil constitutionnel.
On écoute
plus le Conseil d'État.
On va passer à un autre sujet qui va mettre tout le monde
d'accord.
Je peux
dire juste une dernière chose.
Non.
Une dernière chose. Non. Il y a que 4 lois. Non, c'est très important. Il y a que 4 lois qui ont vraiment été utiles depuis 2017. Une, on le rappelle jamais souvent assez, c'est les ordonnances travail de Macron qui a plafonné les indemnités chômage. Deux, le Covid, la loi Covid. On est sorti du droit commun, alors là, ça a gêné personne. Trois, la loi Notre-Dame. On est sorti du droit commun.
Il y a combien de points là? Parce qu'on n'a pas le temps, David.
Et quatrièmement, les JO. Voilà, ces quatre lois, on est sorti du droit commun. Et là, il y a eu de l'effectivité, ça a marché. Voilà.
Bon, allez,
on va
parler d'un sujet que vous avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux. C'est Sandrine Rousseau qui voulait aller à la rencontre des agriculteurs. Elle est repartie sous les huées ce week-end en marge d'un festival de journalisme dans le Lot-et-Garonne. La députée écologiste a voulu affronter directement ceux qu'elle avait blessés il y a un an en disant n'avoir rien à péter de leur rentabilité. Chic. Le face-à-face s'est tourné à la confrontation filmée, commentée, partagée partout. On écoute.
Je vous dis que pour moi, la rentabilité, ça n'est pas le sujet, c'est votre revenu.
Vous n'êtes pas agricultrice, vous savez mieux que nous.
Mais je suis économiste. Et que votre revenu.
Ah oui!
En face de vous, quelqu'un qui depuis 4 ans
n'a pas sorti un sou de son exploitation.
Mais c'est ça le sujet, c'est pas le barbecue. En fait, c'est ça votre sujet, c'est votre revenu,
et vous,
c'est la dignité
et
de votre
travail. Et vous, vous nous dites que vous en avez rien à branler de notre revenu,
non,
madame.
De la rentabilité, parce que précisément, je veux que vous ayez un
revenu. Madame, ça fait 4 ans que je n'ai pas donné un sou à mes gosses.
C'est quand même dingue. Quand une députée écologiste dit à des agriculteurs que leur quête de rentabilité est en train de les faire crever, est-ce du courage politique ou un mépris de classe assumé, David ?
Le réel, hein, ça fait mal. Hein. Mais moi j'adore, c'est des moments de grâce. Là. Voilà, comme elle dit Nathalie Kosciusko-Morizet, voilà, je suis économiste. Des gens qui se suicident. Et elle dit je suis économiste. Mais comment des gens peuvent répondre ? Mais quel manque de dignité.
Quelle indignité.
Quelle indignité.
Non mais moi non, je suis quand même, alors moi j'ai l'impression et j'ai beaucoup vu ça sur les réseaux et je trouve que les gens ont plutôt raison sur ce sujet, c'est qu'en fait elle savait très bien comment elle allait être accueillie, je pense qu'elle a utilisé ça aussi pour faire
bien
du
sûr.
Buzz, voilà, en plus avec je veux dire c'est ridicule avec les CR, évidemment qu'elle ne s'en serait pas sortie et c'est vrai que c'est un mépris de classe énorme.
Bien sûr.
Un mépris de classe énorme, elle est complètement hors sol en fait. C'est de la folie.
Des gens qui nous donnent à manger, en plus qui suicident, on n'en parle jamais de ces gens-là.
Armand.
Moi je vais prendre la défense de Sandrine Rousseau.
Ah, je vais le tuer.
Cette émission, c'est une folie. Hein. Cette émission, c'est une folie. Genre, vraiment,
c'est une joute.
Là, cette émission, c'est.
Sandrine Rousseau représente réellement. Non, Sandrine Rousseau représente ce que je combats politiquement réellement. Cependant, il y a une manière de combattre aussi les gens et de combattre les idées. On l'a entendu, lorsque les agriculteurs de la CR, je pense, ont commis une énorme faute, c'est lorsqu'ils l'accueillent, ils commencent par lui dire « Vous n'êtes pas la bienvenue, mais on va quand même débattre avec vous. » Ils sont assez agressifs aussi envers elle. Faut pas oublier
vous n'avez pas regardé la vidéo, hein,
j'ai regardé
hein,
la vidéo dans son
début,
entièreté. J'ai regardé sa vidéo dans son entièreté. La dame qui accueille Sandrine Rousseau lui dit « Vous n'êtes pas la bienvenue, vous vous rendez compte bien pourquoi. Vous dites des bêtises et des stupidités. » Elle est assez violente dans ses propos quand même lorsqu'elle l'accueille. Ensuite, Sandrine Rousseau se prête quand même au débat et... c'est quand même courageux de sa part de venir débattre avec des gens qui lui sont extrêmement hostiles dès le départ. Moi, je pense que c'est une faute aussi de communication de la part de la coordination rurale parce que ils ont la chance de pouvoir peut-être échanger avec elle et ils sont assez agressifs dès le départ. L'autre point, c'est qu'effectivement, il y a une indélicatesse totale aussi. Et là, je me fais l'avocat plutôt de la coordination rurale de la part de Sandrine Rousseau, qui effectivement est en train de prendre un peu de haut avec un argument d'autorité, celui de je suis économiste, à des gens qui effectivement meurent en travaillant. Qui ne vivent pas aujourd'hui de leur propre travail, qui se lèvent à 8h, 6h, parfois même 5h du matin, qui travaillent toute la journée et qui finissent par se suicider parce qu'effectivement ils n'arrivent pas à vivre de leurs revenus. Donc cet argument d'autorité très méprisant, un peu « je suis économiste, donc je connais mieux que vous vos conditions sociales et économiques », c'est vrai qu'il est assez méprisant.
Je trouve que cet événement en particulier démontre parfaitement la manière dont nos dirigeants sont complètement déconnectés. La classe politique est tellement déconnectée dans sa petite vie parisienne, voilà. Mais en fait, les vaches, ils ne les voient que au salon de l'agriculture. Ils se retrouvent de temps en temps, voilà, à devoir aller serrer des mains dans les marchés quand il s'agit de se présenter au présidentiel.
Exactement.
Mais quand il s'agit d'aller voir les agriculteurs, de voir comment ils travaillent la terre, de voir comment ils nourrissent notre pays, là, par contre, il n'y a plus personne et il n'y a que du mépris, que du mépris.
Armand, excuse-moi, t'as dit. Mais t'as dit ils l'ont mal accueilli, mais enfin, mais des gens qui vivent dans des conditions comme ça matin,
il
midi et soir.
Il y a pas d'accueil. Vous vous rendez compte de.
Tu veux quoi qu'il y ait.
Mais vous savez que rien. Excusez-moi David, mais juste sa présence est une insulte.
Mais alors pourquoi il l'a.
Sachant ce qu'elle a dit, c'était déjà une insulte.
Mais comment faut bien qu'ils expriment leur colère quand même un minimum.
D'accord, mais pourquoi faire. Si c'est un débat stérile, en fait, si on invite quelqu'un juste pour l'insulter, je vois pas l'intérêt.
Mais moi, j'ai rarement vu des débats avec la gauche. Des débats qui marchent avec la gauche.
Moi, je vais vous dire ce que je pense vraiment de cette histoire,
oui,
parce que là, c'est pas possible. Je vous entends les deux. En fait, le débat, il est même pas qu'on l'accueille ou qu'on l'accueille pas. Le débat, il est de dire, elle a des propos avec des gens qui ne, on l'a entendu, ne sortent pas d'argent depuis 4 ans minimum.
Mmh.
Ok, ils ne sortent pas d'argent. Comment tu veux, toi, venir dire je suis économiste, donc je sais mieux gérer l'argent que vous, avec des gens qui sont là pour la population, qui se saignent pour donner à manger à tout le monde, qui font en sorte que quand on leur enlève des pesticides, de trouver des alternatives, quand on leur dit faut tuer leurs bêtes, qu'ils ont élevées depuis 50 ans, qu'ils ont en héritage de leur grand-père, de leur père et ainsi de suite, leur dire on va abattre votre cheptel et on va vous dire bah c'est tant pis, on vous donnera l'argent qu'on voudrait, quand on pourra, hein, on va leur dire ça et en plus
elle
juste comment tu veux qu'elle soit accueillie mieux que ça.
Mais on l'invite.
C'est pas possible.
Oui, d'accord, mais dans ce cas-là, ne l'invite pas. En fait, si c'est pour humilier une personne, l'inviter pour l'humilier, je vois pas l'intérêt.
Mais c'est pas
moi, je pensais au début, bah, si, je suis désolé, lorsqu'on dit vous n'êtes pas la bienvenue, vous êtes stupide, vous êtes une débile.
Mais c'est la vérité.
C'est ça le problème. C'est fait pour être utilisé.
Mais oui, mais j'aimerais. Elle a pas mis les. C'est la première fois qu'elle va dans la cambrousse. C'est pas possible.
Elle fait l'effort de venir, de débattre.
Mais non, elle veut leur donner une leçon.
Moi,
c'est ça le problème.
Bon, moi, je vais te dire la vérité. Moi, j'aime beaucoup la coordination orale. Et je pense que la coordination orale a commis une véritable faute de communication. Parce qu'en fait, par cette séquence, ils montrent que le débat avec eux n'est pas possible et ils se rendent eux-mêmes.
Mais c'est vous faux. Voulez débattre bah, si, c'est avec une végane
Mais pourquoi l'inviter?
Non, mais
il faut pas l'inviter.
Mais je vais me faire attaquer.
Bah, très bien, mais il faut pas l'inviter.
Excusez-moi,
je vais
pas le dire. Au risque là, qu'on passe aussi pour des déconnectés, là, pour, parce qu'on
mais
parle
pas
des
du
questions.
Tout.
Non, deux secondes.
Moi,
deux secondes.
J'ai travaillé avec eux pendant des années.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle des questions de com, etc. Si on parle deux secondes juste des salaires, parce que c'est quand même ça la préoccupation, que ces gens-là ne vivent pas dignement de leur travail. Que fait l'Union Européenne là? La PAC, la politique, c'est quoi?
Il les tue, il les tue.
Mais non, mais c'est bien ce que je dis, où va l'argent? Voilà, où va l'argent? Et des parlementaires, encore une fois, pour revenir à Macron.
Vous vous souvenez certainement de l'époque du Mercosur, on en a beaucoup parlé,
on l'a toujours,
ensuite c'est passé sous le tapis.
Toujours, heureusement qu'on a des industriels qui refusent d'utiliser ces bêtes. Bah oui, bah il y en a peu, il y en a peu, il y en a peu, mais il y en a qui le font.
Si je peux juste conclure, moi je pense qu'on peut quand même débattre sereinement en politique, et lorsqu'on invite quelqu'un, et peut-être que... Qui sait un jour Sandrine Rousseau
fait peut-être l'effort. Réel, Armand, vous êtes pas
peut-être
face
que Sandrine
à des politiques
Rousseau
avec
fera...
des... Vous êtes pas face à des politiques avec des éléments de langage. Vous êtes face à des citoyens qui se crèvent le cul pour que la France puisse se nourrir.
Et on peut quand même être poli. On peut quand même rester poli.
Mais c'est pas une question de poli.
Chers auditeurs, on se retrouve dans un instant après une courte page de pub, enfin de pub, de dons.
Vous êtes près de 2 millions à nous écouter, mais moins de 20 000 à donner. Pourtant, la gauche veut nous bâillonner. La gauche veut nous tuer. Répondez avec 1 euro. 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Par avance, merci.
On ne va pas se mentir, avec Baya Carla et sa bande, tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.
Vous écoutez toujours Radio Courtoisie, on ne va pas se mentir, on ne le dit pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de la chaîne. On est reparti pour moins d'une heure d'émission, restez avec nous. Alors j'aimerais vous parler des réseaux sociaux, voilà, vers une nouvelle censure.
Les amis de David, c'est les sénateurs qui ont eu cette belle idée.
Un rapport du... Vous irez vous tacler après, hein, si vous voulez. C'est comme à l'époque du collège, on se rejoint à 17h devant les locaux pour se battre.
Devant la grille.
Mais pas ici, s'il vous plaît.
J'ai ton adresse.
Un rapport du Sénat qui date d'il y a 6 jours, mais qui aurait mérité d'être lu aux 20h. Un Français sur 8 s'informe déjà avec l'IA. 8 plateformes captent 76% des revenus publicitaires en ligne et jusqu'à un quart des publications sur certaines plateformes seraient trompeuses. 3 sénateurs viennent de rendre un rapport de 56 recommandations sur ce qu'ils appellent les zones grises de l'information. Et l'un des mots qui revient est glaçant, ingérence intérieure. Pas venue de Russie ou de Chine, mais potentiellement d'acteurs français. Elliot, est-ce que vous en avez entendu parler?
Oui, et c'est catastrophique. Bah, c'est les amis de David, les sénateurs, qui encore après 6 mois de recherche accrue et de commission, qui ont décidé de nous pondre une interdiction qu'ils aimeraient voir venir bientôt. Donc mettre en vigueur, dès la rentrée de septembre 2026, une loi interdisant l'accès aux réseaux sociaux, donc déjà pour les mineurs.
Ben voyons.
Plus un blocage technique qui permettrait de censurer certaines plateformes en leur demandant de mettre en place des vérifications d'âge, des vérifications de fact-checking, donc vérifier les informations, et surtout de réguler ce que disent les influenceurs.
Voilà. Mais on rentre clairement en dictature, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le peuple a un moyen de pouvoir s'exprimer et c'est via les réseaux sociaux. On a la chance, grâce à Elon Musk, de pouvoir s'exprimer maintenant librement sur X, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Je pense que certains groupes politiques se sentent actuellement en danger, parce que quand on voit aujourd'hui qu'avec TikTok, Twitter, Instagram, etc., il y a des influenceurs qui sont suivis par des milliers, voire des millions de personnes et qui prônent une idéologie qui est totalement autre de la doxa, voilà, ça pose problème, David.
Oui, non, je suis entièrement d'accord. On va vers une,
dictature.
On va vers une dictature, etc. Parce que je sais pas si
on
vous
ferme
souvenez.
Des chaînes.
On a fermé une chaîne.
Déjà, puis sur les réseaux sociaux, ça commence déjà. Il y a des comptes qui sont fermés. On ne sait pas pourquoi.
Des comptes de droite, oui.
Oui, surtout
fermés.
Des comptes de droite. Par contre, la gauche, là, il y a aucun souci. Il y a pas du tout de censure. Hein.
Par contre, je m'étonne que quelqu'un comme Donald Trump a réussi quand même à tordre le bras à TikTok. En disant, les données TikTok des Américains, par contre, c'est sur le sol américain. D'accord ? Donc, si vous voulez continuer à utiliser, que TikTok continue à vivre sur le sol américain, toutes les données restent sur.
Mais là,
donc, quand
là,
on veut.
On parle pas du même sujet, là.
Non,
on parle pas
ce que
du
je veux
même
dire,
sujet.
C'est
là,
que quand on veut. Oui, j'ai compris, mais ce que je veux dire, c'est que
oui,
quand on veut.
Oui, mais là, vous parlez d'un dirigeant. Ça n'a rien à voir. Là, on parle
de
trois sénateurs qui souhaitent mettre en place
c'est de
ce qu'on
propre,
appelle
ça.
Comment ils appellent ça, cette connerie-là ? Un observatoire indépendant de la désinformation. Parce que. Alors, ils ont quand même l'audace de dire que c'est de la désinformation. C'est-à-dire que leur information est pure, mais celle qui vient du peuple est fausse. Mais quel mépris.
Ça me rappelle le label. Ça me rappelle le label d'Emmanuel Macron. Oui.
Armand, qui êtes un très grand influenceur.
Moi, je vais soutenir.
Non, je vais pas soutenir.
Très bien,
alors, non seulement je vais pas soutenir, mais en plus, j'ai vraiment pas compris. C'est-à-dire que moi, je comprends lorsqu'on parle d'ingérence étrangère. Là, très bien, on voit tout ce que c'est, des ingérences russes, des ingérences américaines, ou n'importe quel être pays étranger sur les intérêts et la politique française. Ça, très bien, je le comprends. Ingérence intérieure, j'avoue qu'en droit déjà je sais pas ce que ça veut dire, une ingérence intérieure, est-ce que ça veut dire qu'on censure effectivement toute idée politique qui va à l'encontre? Moi j'avais vu les propos du sénateur Lafont qui explique que les ingérences intérieures c'est tout groupe politique ou groupuscule ayant un moyen financier d'influencer sur le débat public et la politique publique. Super, ça s'appelle juste faire de la politique. Donc je comprends pas où est-ce que ça mène cette loi. L'autre problème, c'est que c'est le pied de la porte, c'est-à-dire qu'ils nous disent que ce sera uniquement, cette commission sera chargée effectivement de réguler les contenus sur Internet, uniquement le temps des élections présidentielles.
On a trouvé le problème.
Sauf que c'est totalement faux.
C'est le fameux
pied dans la porte, c'est-à-dire que ça servira de prétexte par la suite. Ensuite, pour remettre cette loi, voire la renforcer, cette commission elle est censée réguler 30 à 40% du contenu sur Internet qui est jugé comme toxique, qui sera jugé d'ailleurs comme toxique par une espèce de collège.
La vraie question, c'est où on place
l'ARCOM.
Où on place
5 personnes par l'ARCOM.
Où on place le curseur. Et d'ailleurs, il faut rappeler que l'ARCOM, c'est quand même une, comment dire, une organisation gouvernementale. Hein.
Elle est indépendante, normalement.
Oui, mais bon, on se comprend.
Enfin, elle est indépendante.
D'ailleurs, je peux vous faire une transition ? Il manquerait plus que la justice s'en mêle. Il manquerait plus que la justice se mêle des élections, parce qu'ils ont dit c'est pendant les élections.
En vrai, le vrai problème de ça, bon, déjà, on va reprendre. C'est trois sénateurs. Il y a un sénateur.
C'est une commission. Et,
aujourd'hui, vous êtes très pédagogue, Elliot.
Non, mais on va reprendre les trucs, parce que tout le monde n'a peut-être pas vu tout. N'a pas vu ça, on va être très clair, c'est trois sénateurs, donc il y a une LR, un République En Marche et un PS, donc
UDI.
UDI, donc trois partis qui sont potentiellement dans la merde pour les prochaines élections, et qui cherchent à limiter l'impact des réseaux sociaux pour les prochaines élections, en demandant à ce qu'on vérifie les contenus, pour que ça soit des contenus qui ne soient pas utilisés à des fins présidentielles, donc ils veulent limiter pour la présidentielle des contenus qui pourraient mettre en avant le RN ou la LFI, et surtout la LFI, parce
c'est complotiste.
Non, mais on va être très clair, parce qu'on en a déjà parlé ici. On sait que la LFI va chercher des influenceurs pour mettre en place des réseaux de communication vers les jeunes, pour leur demander d'aller voter pour eux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu Mathilde Panot qui dit qu'il faut aller prendre la carte d'identité et la procuration de son grand-père ou de sa grand-mère, sous prétexte qu'on n'ira pas les voir s'ils ne nous donnent pas la procuration
mais
pour voter.
Évidemment, Elliot, il y a des dérives.
Mais
je ne dis pas le contraire, il y a des dérives.
Donc, on est là en mode, on va limiter l'impact des réseaux pour limiter les deux groupes d'extrêmes, entre guillemets, pour dire, nous on est bien, nous on est le camp du bien, on veut que tout le monde ait la bonne information et la bonne chose.
Non, mais moi je trouve que la priorité, ça devrait être plutôt le harcèlement sur les réseaux sociaux.
Bien sûr.
Quand on reçoit des... Moi je sais, je parle pour moi, mais j'ai déjà reçu des hordes de messages insultants, des menaces de mort, etc. Je peux vous dire que j'ai été très bien accueillie à la PJ. Hein. Franchement, vous connaissez l'histoire, mais... quand on m'accueille et qu'on me dit oui, mais c'est parce que vous votez pour un tel ou parce que vous avez défendu un tel ou
vraiment
machin. Oui, ça m'est arrivé. J'avais fait un débat face à Mélenchon. J'avais 21 ans à l'époque, débat face à Mélenchon sur TPMP à l'époque. et j'avais reçu plein de messages d'insultes.
C'était pendant la présidentielle, ça ?
C'était juste avant.
Juste avant, ouais.
Éric Zemmour ne s'était pas encore présenté, donc c'est vous dire. Mmh. Et donc, j'étais contre Mélenchon et j'ai reçu des hordes de messages d'insultes, de menaces de mort, etc. Et quand je me suis retrouvée à la PJ, parce que ça prenait une ampleur pas possible, on m'a insultée. Je me suis dit, mais attendez, mais vous êtes une fasciste, vous avez des idées de nazis, alors que vous savez très bien que ce n'est pas le cas.
Juste où est-ce qu'on place le curseur de la liberté d'expression ? Je suis d'accord, j'entends ce que vous dites. Hein.
La loi.
Oui, mais alors à ce moment-là, la loi, c'est quoi ? Donc on ne peut plus débattre aussi.
Bah, si on a des propos racistes ou haineux, ils sont répréhensibles.
Bon, on n'arrive déjà pas à faire respecter les lois sur l'antisémitisme et tout ça sur les réseaux sociaux, là, à dénoncer. Donc c'est...
On n'arrive déjà pas à faire respecter les lois les réseaux sociaux.
C'est logique propre.
Non, je répondais juste à votre question. On me disait quelle était la limite. La limite, c'est la loi.
Bah oui.
Oui, mais les lois, elles sont mal faites.
Non, c'est la justice.
Hamza qui arrose les gens, on va pas revenir sur le sujet.
On va pas revenir, mais on a créé un monstre. Hein. Ah oui. Je sais pas si vous savez, mais BFM, CNews et un Tutti Quanti, vous avez créé un monstre.
Oui, il a dit quelque chose de très juste.
Allez regarder l'émission sur YouTube en diffusion.
Oui, c'était une émission très sérieuse à ce qui paraît.
Parce que vous n'étiez pas là.
Non, mais moi je suis assez inquiet quand même de cette loi. J'aimerais bien quand même voir son contenu, parce que si le but c'est de lutter contre les fausses informations, et attention Elliot d'ailleurs, je pense que votre argumentaire est mauvais, parce que vous dites oui le but c'est de lutter contre les deux partis extrêmes, etc. C'est pas ceux qui produisent le plus de fake news, et si le but est de lutter contre la fausse information, tout est en fait dans la définition. J'aimerais bien voir la définition de fausse information. Qu'est-ce qu'une fausse information pour eux? Est-ce qu'un contre-narratif de l'histoire canonique racontée par le gouvernement, est-ce que ça devient une fake news?
Armand, excusez-moi, mais alors à ce moment-là, on ferme les JT, parce que les JT ne décrivent pas le réel. Les JT transforment des réalités.
C'est pour ça que je vous dis que je suis assez curieux de voir le contenu de ce que eux appellent une véritable fausse information.
Fermons les JT.
En fait, la problématique aussi, c'est que c'est une loi qui a été transposée de l'Europe, donc de l'Union européenne, qui a comme d'habitude,
merci.
Qui impose des choses aux merci. Pays membres. Donc, on a des sénateurs qui ont pris au pied de la lettre et qui ont fait une commission d'enquête, entre guillemets, pour se renseigner auprès de YouTube, auprès de, des journalistes, auprès de l'AFP, et ainsi de suite. Sauf que, en fait, aujourd'hui, la problématique, elle n'est pas forcément là. Ils veulent limiter les gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de choses, et tout ça. Mais, en fait, tout le monde peut avoir de l'argent avec les réseaux sociaux. Vous allez sur YouTube, sur TikTok, sur Snapchat, vous faites des comptes, vous arrivez à rentrer dans les critères parce que vous faites du contenu qui est quali. Au bout d'un moment, vous arrivez à faire 15 000 euros par mois. Je suis désolé.
Ouais, mais le but, c'est de lutter quand même contre la fausse information et les comptes qui sont susceptibles.
Ils veulent limiter les gens pour l'argent.
Vous savez très bien de quoi on parle. Ne faites pas l'hypocrite.
Non, je ne fais pas l'hypocrite. C'est juste qu'il y a effectivement des comptes. Moi, je leur donne raison sur un point. C'est qu'effectivement, je crois qu'ils disent qu'il y a 15 millions, un truc comme ça, 15 milliards
peut-être,
je crois.
15 milliards de vues.
15 milliards de vues sur des comptes qui diffusent de la fausse information. Ok, c'est vrai, factuellement c'est vrai. Sauf qu'en fait, la régulation de ces comptes existe déjà. Les contenus sont directement déjà supprimés ou shadowban et autres par les plateformes sur lesquelles ils sont
diffusés.
Bah donc vous êtes contre ?
Ah mais je suis contre parce que déjà je ne comprends pas le sens de cette loi. Je ne sais pas où elle va. J'aimerais bien qu'on me définisse quand même les différentes propositions qu'ils ont données, mais dans leur intégralité. C'est quoi une fausse information pour eux ? Quel type de contenu va être ?
Une fausse information pour eux, c'est très simple. C'est une information donnée par ces news.
Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je suis assez curieux de voir la finalité de cette loi. Qu'est-ce qu'elle contient réellement ? Et en fait, encore une fois, c'est pour ça que je disais ça en préalable, c'est que je ne comprends même pas l'intérêt de cette loi. C'est-à-dire que la régulation existe déjà, et si les gens ont envie de croire que la Terre est plate, libre à eux, ça s'appelle la liberté.
Ah oui, mais c'est la loi. Bah, Armand, excusez-moi, c'est
pour ça que je vous dis que ça s'appelle la liberté. Donc
vous êtes contre le fait que la loi régule.
Je suis
désolé, c'est contradictoire.
Non, mais c'est contradictoire. Bien sûr, je suis contre.
C'est tout ce que vous vouliez dire ? C'est contradictoire.
Non, juste avec Elliot, 15 000 euros par mois à la chaîne YouTube, on se parle après.
Il n'y a pas de souci.
Merci.
Non, mais vous vouliez réagir, Elliot, et ensuite.
Moi, j'ai une réaction. Alors. Outre le fait que je ne crois pas du tout en ça, ça va amener une censure des réseaux sociaux, il y a une chose qu'on ne prend pas en compte. Pour avoir parlé avec une experte en ingérence, il y a un mois, il y a plus de 20 à 30 URL, donc noms de domaine qui ont été achetés, avec des copies de noms comme Le Monde, comme Le Figaro, avec des fautes dedans. Donc par exemple Le Monde avec 2 M ou Le Figaro avec 2 I, pour justement créer donc cette confusion et du coup amener à cette ingérence. Mais c'est sur Internet, les réseaux sociaux à proprement dit, ce qu'ils veulent limiter, c'est des gens, et c'est ça le problème.
Pas forcément des gens, c'est aussi des groupuscules qui réfléchissent différemment.
Non, parce qu'on va passer à un autre sujet là. Elle a été condamnée, mais elle a gagné son éligibilité. Mardi 7 juillet, la Cour d'appel de Paris a rendu son verdict dans l'affaire des assistants du RN au Parlement européen. Marine Le Pen écope d'un an de prison ferme sous bracelet électronique et de 100 000 euros d'amende. Mais surtout, son inégalité. Je savais que j'avais fait une erreur. Son inégalité. inéligibilité ferme est déjà purgée, ce qui la rend candidate à la présidentielle 2027. Résultat immédiat, elle repasse en tête de tous les sondages, loin devant Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon. On vous explique ce jugement à double tranchant et ce qui change vraiment pour la course à l'Élysée. Comment expliquer que Marine Le Pen progresse dans les sondages au lendemain même de sa condamnation en appel ? J'arrive plus là, David.
Je trouve que c'est grave. Je trouve que c'est très grave parce qu'elle remet entre les mains de la justice le sort de la présidentielle. C'est-à-dire que la Cour de cassation, alors la procureure nous a dit, elle est passée sur TF1, elle a dit oui, je ferai tout, soi-disant, donc pour pas rendre ma décision avant le premier tour de l'élection présidentielle. Je ferai
deux
tout.
Semaines.
Hein ? Merci. Mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave.
Armand.
Attendez, je comprends pas. Le problème, c'est la procureure, du coup, c'est pas du tout Marine Le Pen, hein, qui est condamnée.
Non,
le
c'est,
problème,
la c'est la justice. C'est la justice. D'accord. Oui, c'est la justice.
D'accord. Donc en fait,
c'est
elle est innocente.
Mais bien sûr.
D'accord. D'accord. Elle a été condamnée par deux instances, donc la cour d'appel est en première instance.
Mais il y a plein de gens qui ont été condamnés. Oh,
très bien.
Oh.
Bon, sur un point de vue légal, effectivement.
Non, elle est... vous n'êtes pas d'accord. Moi, j'aimerais bien avoir
la vie
de David.
Mais bien sûr, mais c'est une condamnation politique, fait... juste parce que des assistants parlementaires ont fait un peu. Attendez, faut répéter, faut dire la vérité. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, d'accord,
d'accord.
Ce sont des assistants parlementaires qui ont fait, des assistants parlementaires
du
Parlement européen qui ont fait de la politique aussi au niveau national, qui ont traité des dossiers au niveau national. Enfin, franchement,
pour vous, c'est quoi, c'est des cyborgs. C'est une condamnation
faut que ce soit
politique.
Mais
c'est
bien
une condamnation
sûr,
politique.
Faut que ces gens-là, j'étais assistant parlementaire au niveau national.
On l'a bien compris. Ça.
Mais il faut quoi que ces gens soient des cyborgs et des qui. Mais ça, c'est ridicule.
D'accord. J'aimerais bien voir ce qu'il a produit pour le parti politique, le jardinier de Marine Le Pen. Mais bon, c'est un autre débat, je pense. Non, mais là vraiment, je comprends pas. Vous faites vraiment l'avocat du diable et du diable qui a tort. Vraiment. Elle a été condamnée. Elle a toujours eu ce discours très moralisateur sur la vie politique française. Elle a toujours été pour une probité, pour une transparence. Souvenez-vous de ses propos. Si quelqu'un est condamné, il n'a pas le droit moralement le droit d'être candidat à une élection présidentielle et autres. Aujourd'hui, elle fait partie de cela. Je comprends tout à fait aujourd'hui tous les cadres du RN qui sont extrêmement gênés par cette situation. Parce qu'effectivement, il y a le droit et il y a la morale. En droit, elle a tout à fait le droit de se présenter. Elle a fait un recours en cassation. Donc effectivement, elle est redevenue présumée innocente. Hein, elle n'est pas coupable pour le moment, effectivement. Elle est de nouveau innocente. Cependant, moralement, vous ne pouvez pas me dire que tout va bien.
David, vous êtes d'accord avec vous n'êtes pas d'accord avec Armand, pardon.
Bien sûr que non, je ne suis pas d'accord. Bah, non, il y avait bien plein de gens aussi qui ont été condamnés, qui ont été ministres, etc.
Qui n'ont pas fait la morale à d'autres. La différence est là. C'est-à-dire que Marine Le Pen n'a pas cessé depuis le début de sa vie politique à dire que c'était immoral, qu'en fait il ne devait pas y avoir de candidat.
Mais parce que c'est des moments politiques et puis il faut taper, etc. Mais les gens, ils s'en fichent.
Vous l'avez compris, chers auditeurs, Armand votera Marine Le Pen.
Non, le problème n'est même pas là. Moi, je comprends d'ailleurs son électorat qui continue de voter pour elle, qui fait abstraction de ce jugement. Je le conçois totalement. Je pense que sa base n'a pas du tout changé. Cependant, je suis désolé, mais en fait, quand on passe sa vie à faire de la moralisation sur la vie politique, bah en fait, il faut se l'appliquer à soi-même aussi.
Ouf, il y a une demande à Mélenchon. Demande à Mélenchon alors.
Très bien, mais
non, mais lui, c'est la République. C'est pas pareil.
C'est pas parce qu'il y en a un qui a faute, que Mélenchon fait des fautes qu'on peut pas dire que Marine Le Pen ne fait pas de fautes.
Non,
en fait, faut
parce
qu'il faut être juste.
Des fautes selon qui? Selon la justice, cette justice politisée qui fait le mur des cons, le syndicat de la magistrature, des magistrats qui sont en première ligne des meetings de la LFI. Mais bien sûr que non, elle est politisée.
Vous ne croyez pas aux sénateurs.
L'état de droit, quand il vous arrange, c'est génial. Mais en fait,
à quel moment, moi, l'état de droit, pas du tout. Ni le Conseil d'État, ni le Conseil
constitutionnel.
Non, c'est les intérêts de la France. Ce n'est pas mes intérêts, c'est les intérêts nationaux, les intérêts des Français.
Je ne sais pas, moi, en tout cas, je retiens juste qu'elle a été condamnée en première instance et en appel. Que pour l'instant, elle a le droit de se présenter et Dieu grand bien lui en fasse, j'allais dire.
Et Dieu bénisse
son parcours. Non, mais elle a un destin aujourd'hui qui est d'aller devant les Français. Effectivement, par contre, les juges seront les Français et les Français voteront.
Mais justement, si la Cour de cassation tranche juste avant l'élection, la France peut-elle se retrouver avec une candidate invalidée en pleine campagne?
C'est pour ça que je dis oui, c'est grave. Enfin, je veux dire, moi, ça m'inquiète.
Est-ce que vous pensez que c'est pas un peu la stratégie aussi?
Mais bien sûr.
Bien sûr que oui.
Déjà, allez-y, réagissez, vous n'avez toujours pas parlé.
Bien sûr que oui. Déjà, on a eu un problème.
Bien sûr que oui.
C'est qu'on a un souci de date. Elle a dit j'annoncerai ma candidature une fois que ça sera sorti. Bon, c'est sorti, il y a tout le monde qui s'est présenté avant elle. Il y avait Bardella qui attendait. Là, elle nous dit je vais en cassation. Deux semaines avant le premier tour de l'élection, elle doit savoir si elle est coupable ou pas. Bon, bah, on a compris. Quoi qu'il arrive, à chaque fois, l'échéance, c'est pour elle, c'est à la dernière minute. Elle doit être candidate à la dernière minute. Elle doit être possiblement présidentielle à la dernière minute. Bon, bah, tout est à la dernière minute. On essaye juste de nous faire passer des choses tranquillement. Je suis sûr que la cassation pourrait très bien statuer avant décembre et ça poserait de problème à personne.
Est-ce qu'on peut faire campagne avec un bracelet électronique?
Oui.
Non.
Oui. Bah, de toute façon, c'est le statut, c'est en janvier, donc ce sera un peu la fin. Marine Le Pen, qu'elle fasse campagne ou pas, je pense qu'elle n'a pas besoin d'aller au contact des Français. Elle a déjà une base, comme je disais, qui est inamovible. Après, ce qui est intéressant, c'est la temporalité. C'est-à-dire qu'en fait, elle est condamnée en appel. Le jour même, elle lance sa campagne politique avec ses équipes qui sont déjà prêtes, son slogan qui est prêt, son visuel qui est prêt. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le départ, Marine Le Pen avait l'intention d'être candidate.
Et son dauphin qui était prêt aussi.
Ouais, mais qui était quand même assez surpris.
D'après vous, Jordan Bardella était déçu de cette décision ou pas?
Je pense qu'il a été assez surpris que Marine Le Pen fasse campagne aussi rapidement, juste après ce jugement. Le jour même, le slogan est sorti avec le visuel.
On sent celui qui a l'habitude des campagnes. C'est vrai, je trouve qu'il a été naïf. Je trouve que Jordan Bardella était naïf. Hein. Quelqu'un qui fait ça depuis, je sais pas, ça va faire 20 ans, elle a repris le parti en 2011, c'est la fille de Jean-Marie Le Pen. Quelqu'un qui a baigné dans ça, qui n'a fait que ça toute sa vie. Et lui, il pensait qu'en fait, elle allait lâcher ça. Excusez-moi, je trouve que c'est naïf.
Puis ça fait partie de son destin, elle a une histoire à terminer.
Vous avez vu l'attaque de Gabriel Attal contre le logo et l'écriture, la phrase La Renaissance.
La Renaissance.
Vous avez vu vous avez vu passer ça?
Bon, ça lui appartient.
Vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est un simple buzz ou il y a
je pense que ça lui appartient pas en tant que tel. Enfin, La Renaissance, c'est juste un mot. Vous savez, il y avait eu la même problématique, pour ceux qui s'en souviennent, entre Jean Lassalle et Éric Zemmour sur Reconquête, logo Le R. Bon, qui était aussi tout aussi sérieuse comme attaque. Non, mais ça lui appartient pas. Bon, c'est vrai qu'il y a des petites ressemblances avec le Renaissance, parce que c'est le même mot, mais bon.
Je peux rebondir sur l'histoire du bracelet électronique. Si elle se présente mal avec un bracelet électronique, etc., je pense que ça va lui pourrir la campagne.
Non, je pense pas, justement.
Mais si, parce qu'ils
vont parler que de ça. Il va y avoir un élan de contre-pouvoir.
Non, ils vont parler que de ça. Les médias. La puissance de feu médiatique est très forte.
Les médias en parlent déjà. Ils sont déjà sur
le
sujet.
Oui, c'est bien ce que je dis. Ça va lui pourrir. On l'entendra pas. Elle sera inaudible. Elle pourra pas faire passer le message. On l'a connu avec Zemmour.
Apparemment, et ensuite Elliot.
Zemmour, ça a été le Pétain, etc. Ouais.
Je pense que pour éviter toute problématique, et en fait, elle aurait juste pas dû prendre de l'argent européen. Vraiment, je pense que ça aurait évité pas mal de
soucis. Armand, excusez-moi. Si c'était pas l'argent là avec les parents, ouais. Et on lui aurait trouvé autre chose. D'accord. Et depuis qu'elle est petite, on lui trouve autre chose. C'est son père. Le parti a été soi-disant fondé par je sais pas qui, je sais pas quoi.
Sauf que lorsqu'on est un parti,
j'ai pas honte. Oui, j'étais candidat. Oui.
Sauf qu'on est un parti dit d'opposition, et ben on doit se montrer plus blanc que blanc. C'est une erreur qui a été commise. Cependant, je vous rejoins sur un autre point que vous avez souligné tout à l'heure, et je suis assez d'accord, vraiment, je fais très court. Lorsque vous avez dit que, effectivement, lorsqu'on est collaborateur au Parlement européen, on comprend pas trop ses missions. Ça, je vous rejoins totalement là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu ce flou de qu'est-ce que le travail législatif, qu'est-ce que le travail en circonscription, qu'est-ce que le travail pour politique. C'est vrai qu'il y a toujours eu ce flou parmi les collaborateurs, et ce serait bien un jour de statuer. Mais je pense qu'ils savaient très bien que c'était une erreur, ils l'ont commise, ils vont la payer, et c'est les Français qui décideront lors de l'élection présidentielle.
Tiens, 20 ans après avoir affronté Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal repart en campagne. Jeudi dernier, les militants du Parti Socialiste ont tranché. Ce sera une primaire fermée réservée aux adhérents du PS et de place publique pour désigner leur candidat à la présidentielle 2027. Résultat immédiat, l'ancienne ministre s'est déclarée candidate avec un slogan tout droit sorti de 2007. Pendant ce temps, Raphaël Glucksmann, lui, se fait désirer et son entourage n'exclut même pas une candidature seule sans passer par la case primaire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez un fou rire là?
Mais parce que Ségolène Royal.
Ségolène Royal contre Glucksmann, duel.
Mais Olivier Faure aussi, il y a Olivier Faure dans cette première.
Bon, j'ai oublié Olivier Faure. Honte à moi, j'ai oublié Olivier Faure.
Vous connaissez la formule, la France tranquille et l'ordre juste.
C'est génial, bravo.
Colère saine.
Mais c'est quelqu'un qui vit dans quel temps? Parce que si elle date de 2007 et qu'elle nous fait les mêmes slogans, la même politique que 2007, elle est mal barrée.
Vous méprisez un peu Ségolène Royal, mais il y a des Français qui sont nostalgiques d'une certaine époque. C'est tous les anciens présidents qu'on a. Vous verrez, dans trois ans, on dira Emmanuel Macron, c'était pas si nul. Vous verrez.
Jamais de la vie.
Vous verrez, les Français sont toujours nostalgiques d'une époque.
Julien Dresser sort de ce corps.
Non, je suis absolument d'accord. C'est vrai qu'on fait l'éloge de Chirac maintenant depuis des années parce que bon, père à son âme, il est mort. Mais du coup, on fait l'éloge de Chirac alors que ses mandats étaient totalement désastreux. Mais c'est vrai qu'on a cette nostalgie.
Pour vous, c'est un retour de la gloire passée ou une candidature de témoignage qui n'a aucune chance d'aboutir, Elliot?
Témoignage qui n'a aucune chance d'aboutir. Je vais m'expliquer pourquoi. En fait, elle n'est pas crédible, pas parce qu'elle a raté une élection ou parce que c'est Ségolène Royal. Moi, ce que je trouve pas crédible, c'est d'avoir voulu se placer depuis 3 ans partout.
Elle a ramé, hein.
Partout.
Oh là là.
De 2024 à maintenant, elle se positionne partout. Okay. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas crédible. C'est comme Lucie Castet, c'est même pas où elle est.
Okay, parce qu'Emmanuel Macron lui a enlevé son poste d'ambassadrice dans l'épaule. Et voilà, maintenant elle veut quelque chose.
Mais elle aura rien.
Raffarin aussi, là, il est sur le...
Bah oui.
Bah attendez, on a Royal, Hollande, Glucksmann, Valo, Gage et Boimran qui se bousculent.
Oui.
Bon, après, il y a des candidatures plus sérieuses que d'autres.
Il y en a qui se sont pas annoncées.
Est-ce que la gauche ne va pas s'aborder, Armand ?
Non, je pense qu'il y a des candidatures qui sont plus solides et plus crédibles que d'autres. Je pense à celle de François Hollande.
Oui, voilà, pourquoi on n'en parle pas. Ouais.
Parce qu'il a une sympathie assez forte hein, à gauche. Ségolène Royal aussi a une grande sympathie. Ségolène Royal, je suis un peu plus inquiet parce que j'ai l'impression qu'elle fait un tournant assez gauche radical de plus en plus.
Mais parce que c'est ce qui marche. Aujourd'hui, moi, quand j'entends des jeunes sur les réseaux sociaux dire que LFI, c'est limite centre, moi, je.
Oui, après flirter avec l'électorat LFI, moi je suis pas sûr vraiment de la stratégie. Je ne pense pas que l'électorat LFI finira par voter Ségolène Royal. Je pense qu'elle incarne totalement ce que déteste et ce que condamne LFI. L'électorat LFI,
la bourgeoisie de gauche, la bourgeoisie à la rose.
Elliot.
Bah, alors moi j'ai une question. Du coup, comment Hollande peut revenir comme ça après avoir floré? Il a quand même bien flirté avec.
Avec.
Bayaladi.
Vas-y avec.
Avec la LFI. Et la NUPES, je suis désolé.
Mais Bayaladi, la nostalgie.
Mais nostalgie de rien du tout. Il y a un moment où il faut regarder les choses concrètement. Hollande est très malin, oui. Bah, de toute façon, à partir du moment où il a décidé de revenir en tant que député, c'était pas pour manger des croissants.
Je fais référence à l'anecdote. Là, il y a un complément d'enquête qui est sorti sur comment Hollande, à un moment, est redevenu de président de la République. Il a caché... Quand il est redevenu député en 2024. Il a caché jusqu'à la dernière minute son dépôt de candidature. Ça veut dire qu'il y avait une circonscription réservée. Voilà, et en fait, Hollande, c'est ça. C'est tout le temps, à la dernière minute, il attend qu'il y ait un trou de souris, et puis il s'enfonce.
Mais
j'aimerais bien revenir sur Glucksmann. Est-ce que, d'après vous, il peut se permettre de snobber la primaire du PS ?
Non.
Oui.
Mais
j'ai du mal avec Glucksmann. Chaque fois qu'on dit Glucksmann, ça me fait penser à son discours.
En vrai, Glucksmann, il ne peut rien se permettre. Il ne peut rien se permettre. Déjà, personne ne le connaît. Ça fait 2 ans qu'il est là. On le voit. Il fait des meetings qui sont catastrophiques. Il n'y a pas une personne. Il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a rien du tout. Donc, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la casserole qu'il a, qui est que c'est un homme qui va empêcher sa femme de travailler au JT de France 2.
C'est qui, sa femme ?
Elle est à Salamé, bien
oui.
sûr. Donc ça, c'est aussi une belle casserole qui va tenir. C'est-à-dire que, en plus de l'échec qu'il va se prendre s'il va en primaire, il risque d'être le mec qui a fait arrêter le travail à sa femme. Moi, je trouve ça compliqué. Aujourd'hui, en France, qu'un homme dise t'as pas le droit de bosser parce que moi, je vais me présenter, tout
Après, c'est pas de sa faute.
Il y a un moment, je pense qu'il
devrait même la mettre candidate à sa place.
Elle a plus de chance. Après, le problème, c'est les interviews, je sais pas.
Elle a quand même plus de charisme, mais bon.
Alors là, on va faire face à des grands princes. Voilà, c'est une ville de banlieue parisienne, endettée de plus de 90 millions d'euros, qui vient de voter 46 000 euros pour un autre pays. Je sais pas si vous avez vu passer ça, c'est à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, que le conseil municipal a approuvé début juillet un vœu de solidarité envers le Mali, assorti d'une subvention sur 4 ans. Une décision qui passe très mal dans un contexte diplomatique tendu entre Paris et Bamako et qui relance un débat bien plus large. Jusqu'où une mairie doit-elle financer l'international quand ses propres administrés attendent des réponses chez eux ? Non mais alors, nous on est dans un pays de grands seigneurs, on a trop d'argent, c'est-à-dire que les pièces en tombent des poches. C'est-à-dire qu'en France, déjà, on a du mal, on est surtaxé, et on va maintenant donner de l'argent à des pays étrangers qui, en plus, nous crachent dessus. Mais c'est quoi cette histoire, David ?
Tout à l'heure, on ne parlait pas des agriculteurs qui se suicidaient parce qu'ils n'arrivaient pas à vivre dignement de leur travail.
Voilà
où va l'argent. Et j'aimerais bien que moi, ce genre d'infos, en fait, fasse la une des JT pour que là, tous ces racialistes, là, ces anticolonialistes, je ne sais pas quoi, etc., qu'ils arrêtent de dire qu'en fait, on ne fait rien, soi-disant, pour eux, qu'on ne donne pas de l'argent dans les banlieues. Les plans banlieues, ça a été des milliards, etc. Voilà, ils se sabordent eux-mêmes. Et en fait, ils font tout ça juste pour nous culpabiliser. Voilà, c'est tout.
Ah bon ?
Je pense que la gauche a un vrai problème avec l'argent public, c'est qu'elle a l'impression que l'argent public, c'est pas le leur. Elle comprend pas qu'en fait, c'est notre argent. Vraiment, je pense qu'ils ont l'impression que c'est l'argent.
C'est un problème de fond.
Mais oui, c'est la phrase de Hollande. Et vraiment,
je l'ai plus en tête.
L'argent magique. Et c'est vrai, on a l'impression que c'est de l'argent magique. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que cet argent, ce sont nos impôts. Aujourd'hui, ils sont quand même. Ils veulent. Alors, la cause est très noble. Hein, c'est une association. C'est pour entretenir la solidarité des peuples entre la France et le Mali. C'est très beau sur le papier. Sauf qu'en fait, le Mali, juste, c'est ceux qui nous ont virés, qui ont préféré les Russes aux Français. Ouais. Hein, alors qu'on les a quand même
46 000 euros sur 4 ans pour des projets de développement au Mali.
Ouais. Alors qu'on a envoyé des soldats français.
Développons notre pays. Non mais déjà,
pour la ville.
Non, mais déjà
pour
il faudrait réindustrialiser la France. Tout le monde se plaint de pas avoir d'emploi, tout le monde se plaint d'avoir des services publics qui sont complètement nuls. Il y a des hôpitaux, il y a des trous dans les murs, les facs tombent en ruine. Non mais je veux dire, c'est scandaleux. Comment on peut c'est pas entendable. Et il y a le conseiller RN Kevin Nader qui a dénoncé ce choix, rappelant les soldats français morts au Sahel, dont le caporal-chef Maxime Blasco tué en 2021. J'ai trouvé son intervention très intéressante, Elliot.
Oui, alors moi mon problème, il est même pas qu'on veuille donner de l'argent, c'est il y a un déficit de 100 millions. Comment tu veux donner de l'argent?
90 millions, très exactement.
Oui, enfin, quand t'as 90 millions...
10 millions, c'est beaucoup, Elliot.
La ville,
elle a un déficit de 90 millions. Si je les avais, je serais pas là.
Quel mépris, quelle indignité.
Bah non, mais je suis désolé, je serai au restaurant. Voilà. Non, mais il y a 90 millions de... Il y a 90 millions de déficit, les gars. Arrêtez de vouloir donner de l'argent à tout le monde. Déjà, regardez en bas de chez vous comment
vous
allez
faire. Vous savez pourquoi ils les donnent? Parce que c'est pas le leur. Hein. Vous avez tort, en réalité. C'est pas de l'argent de leur compte à eux. C'est comme cette fameuse vidéo où un journaliste va voir ou un influenceur va voir des gens dans la rue et il propose un migrant. Là, c'est pas la même chose.
Vous pouvez l'héberger, non?
Dès qu'on vous les met au mur, c'est plus la même chose.
C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils ont l'impression que c'est de l'argent magique. En fait, c'est leur argent, factuellement, mais ils n'arrivent pas à concevoir que c'est leur propre argent. C'est ça le problème. C'est les impôts. Si, c'est leur argent.
Il y a les subventions de l'État aussi.
D'accord, mais les subventions de l'État, c'est quand même nous, hein, c'est nos impôts, les gars. C'est nous qui les payons, les subventions de l'État. Eux aussi, ils font partie de ceux qui les payent. Mais la manière dont ils présentent ça, c'est comme si c'était un cadeau. On a l'impression que c'est un cadeau étatique. Ils ne comprennent pas que c'est nos impôts.
Ce qu'il faut dire, c'est que c'est complètement de l'électoralisme. C'est-à-dire que les gens qui habitent à Bamako on n'ont rien à foutre de la France et de ces 40. Combien là on avait
46 000.
46 000, c'est déjà trop. Mais surtout, est-ce que c'est le. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est le rôle d'une mairie française de financer des projets à l'étranger?
Oui, lorsqu'il y a des
lorsqu'il
y a des jumelages avec certaines villes et
autres. Il faut arrêter avec les jumelages. C'est comme Paris, ça donne à tout va et au final on a rien.
Faut pas arrêter les jumelages, ça s'appelle un échange culturel, ça s'appelle il y a quand même des échanges qui sont faits.
C'est plutôt un échange financier.
Attendez pas tous en même temps, Elliot.
Attendez, moi j'ai un problème. Je regarde le JT la dernière fois, je regarde une ville d'Alsace qui a un EPR dans sa ville et du coup qui reçoit des subventions parce qu'elle a un EPR, elle gagne de l'argent la ville. OK? On a des villes qui sont en déficit, qui ne sont pas attractives, qui ne permettent pas aux entreprises de venir parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais c'est certaines villes où il y a des dangers, où on veut pas mettre en place des choses, où on veut pas débarrasser certains immeubles pour les détruire et mettre des nouveaux immeubles, rendre la ville plus agréable, amener du travail juste. Vous devenez attractif, vous faites rentrer de l'argent dans la ville en contrepartie. Là, on est avec des villes qui... 1. Surdépense. 2. Veulent donner à tout le monde. 3. Les habitants sont pas non plus logés à la meilleure enseigne. Et en plus de ça, on a des services qui tombent à l'eau. Je suis désolé, il y a un moment, on regarde les gens en face, on leur dit, il n'y a pas d'argent à donner. L'objectif, c'est d'arrêter le déficit, donc baisser les dépenses, et surtout de réindustrialiser la ville et faire rentrer de l'argent. Non, basta. Comme une société.
Pourquoi nous, en fait, en tant que Français, pourquoi on se place en sauveur du monde? Qui nous donne de l'argent, nous?
Mais personne.
On est une grandissante. Qui nous aide?
Si, on a aussi des pays qui financent parfois certaines œuvres culturelles ou autres.
Ah, génial. Il y a Dubaï qui nous a donné un peu d'argent. Pour le Louvre,
il y a aussi le Japon. Vous qui aimez le Japon, nous paye aussi souvent quand on fait des expositions au Palais de Tokyo et autres. Il y a quand même des échanges interpays qui existent.
Oui,
on a reçu deux pandas, on leur a rendu deux pandas.
Vous parlez de projet de bourgeois. On parle de développement carrément d'un pays.
Justement, ce qui me dérange dans ces décisions du conseil municipal, c'est la fausse noblesse de l'action. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est quand même, il est tout d'abord associatif, c'est le rapprochement des peuples. Bon, sur le papier, c'est magnifique, mais effectivement, quand on a 90 millions d'euros de dette, c'est peut-être pas la priorité. Et surtout, le problème que j'ai, c'est le pays. Et le problème que j'ai, moi, le second problème que j'ai, je suis désolé, c'est le pays. C'est le pays. Le Mali, c'est encore une fois, c'est un pays où nos soldats français ont été virés. Où des soldats sont morts et Kevin Nader, il a raison là-dessus. C'est vrai qu'on a envoyé des soldats mourir dans ce pays.
Tu prends une gifle et tu donnes quand même de l'argent parce qu'on t'a donné une gifle. C'est ça qui est génial.
C'est un peu ça. C'est assez problématique à ce niveau-là. Sinon, demain, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une commission. On va envoyer de l'argent pour la solidarité des peuples avec la Corée du Nord.
J'ai des sénateurs, si tu veux, pour toi.
Non, mais on peut choisir des pays au hasard. La Corée du Nord, des dictatures à travers le monde.
Je te rappelle que c'est
complètement débile. Et je pense que le Mali ne verra jamais d'ailleurs la couleur de cet argent.
Excuse-moi, c'est ce que Sarah Knafo justement avait dénoncé avec l'AFD.
Mais elle avait raison.
Elle avait raison. Qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'on donnait de l'argent à la Chine.
Pas 9 milliards au total, non?
Oui, 9 milliards au total.
Oui,
voilà.
Oui, au total, mais qu'on donnait pour que la Chine s'industrialise, je crois, ou un truc comme ça.
Mais surtout
c'est
que
symbolique. Ouais.
Moi, ce qui me fait rire, c'est toujours cette dimension que la gauche prend vis-à-vis des autres. En fait, il y a une forme d'arrogance aussi dans la volonté de donner 46 000 euros. À la ville de Bamako. Pour moi, c'est vraiment, c'est tenez, nous sommes les sauveurs blancs. C'est pas de l'humanisme, c'est complètement hypocrite.
Peut-être aussi que la ville d'Ivry voulait faciliter les Western Union. C'est plus facile, comme ça, ils donnent directement à la ville.
C'est pas possible.
Dérapage. Vous en avez d'autres, des blagues comme ça.
Fast and Furious, dérapage.
Non, mais c'est... Ah tiens, on va parler de ce que vous n'aurez jamais, David, la Légion d'honneur. Ah, quoique, parce qu'elle est donnée à n'importe qui, donc vous êtes
de vos chances. C'est ce que j'allais dire. Et franchement, vu ce qu'ils
ont... Il a été assistant parlementaire.
619 personnes, c'est le nombre record de récipiendaires de la Légion d'honneur pour ce 14 juillet 2026, autrefois réservé à des parcours d'exception. La plus haute distinction française s'ouvre désormais à n'importe qui, ou presque, grâce à ce qu'on appelle l'initiative citoyenne. 54 personnes décorées cette année simplement parce que 50 concitoyens ont signé un dossier en leur faveur, entre Nathalie Portman et Christine Lagarde d'un côté et des inconnus plébiscités par leurs voisins de l'autre. Je vous pose la question, la Légion d'honneur a-t-elle encore un sens, David?
Alors, je vous lis les noms quand même. Alors, Nathalie Portman, Christine Lagarde, Richard Malka, Pierre Arditi, après Eva Jospin, Xavier Ginoli, Rebecca Zlotowski, Philippe Besson. On a encore Pierre Aski, Radio France, Sylvie Kaufmann, Le Monde. Allez, il fallait bien quand même, soi-disant, une journaliste de droite. Isabelle Lasserre, Le Figaro. Voilà. Ils sont où les pompiers? Ils sont où les présidents d'associations? Des anciens combattants, des gens comme ça. C'est insupportable.
En vrai,
voilà.
Déjà,
c'est toujours la même chose. C'est de l'entre-soi.
Je vais faire un peu de pédagogie.
Attendez pas tous en même temps.
Je vais faire la pédagogie. Pourquoi la liste est aussi longue? Est-ce que vous le savez?
Fin de règne. Emmanuel Macron.
Alors déjà, non. C'est parce que chaque ministre peut proposer des noms. En plus de ça, donc il y a 24 initiatives citoyennes, et après il y a des gens qui sont proposés par les ministres. Donc déjà, chaque ministre remet une médaille à une dizaine, quinzaine, vingtaine de personnes. Donc déjà, ça c'est pas mal. Ensuite, on a beaucoup de noms qui l'ont déjà. Parce que Franck Leboeuf, par exemple, je vous l'ai dit, l'a déjà. Il l'a eu en 98 parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Là, on va lui donner le grade au-dessus. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pour les pubs. Hello, c'est Franck Leboeuf. Donc, des choses comme ça. Moi, le problème que j'ai avec la médaille, et enfin avec la Légion d'honneur, déjà de 1, c'est que il y a un principe. Tout est dans le nom, c'est l'honneur. Okay, si on veut donner à des... par exemple, vous avez donné, je crois, le nom de Eva Jospin.
Ouais, qui est la fille.
Oui, qui est la fille de Jospin, déjà de 1. 2. Qui est, je crois, dans l'art.
Plasticienne.
Voilà, elle est plasticienne, donc elle est dans l'art. Qu'est-ce qu'elle fait pour nous? C'est quoi l'honneur?
Bah, actuellement, elle est une expo.
Mais attendez,
Paris.
Vous savez que. Mais c'est quoi l'honneur? Vous connaissez l'histoire de la Légion d'honneur. Ça a été créé en 1802 par Napoléon Bonaparte pour distinguer des services éminents rendus à la nation.
Voilà.
À quel moment? Parce que moi, j'ai vu ce nom, ça m'a étonné. Alors, je pourrais pas vous le redire parce que c'est un nom arménien, peut-être que vous pouvez nous aider. Oui. Francis Kurgistan, je crois.
Ah, oui.
Qui est le fabricant des parfums Baccarat. Mais quel rapport? C'est-à-dire que quelqu'un qui parfume les gens. Reçoit la Légion d'honneur et quelqu'un qui se casse le dos tous les jours pour aller travailler ne l'a pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des parfumeurs, parce que ça doit être le pote d'Emmanuel Macron ou le pote d'un pote d'Emmanuel Macron, reçoit la Légion d'honneur.
Il est arménien, il la mérite.
J'étais sûr, vous lui parlez d'arménien.
Justement.
Non, mais je plaisante.
Non, mais vous vous rendez compte à quel niveau on est en fait?
Bah, j'ai une anecdote.
Toutes les institutions n'ont plus de valeur aujourd'hui.
Alors, on a voulu vous la donner, Arnaud.
J'ai une anecdote pour vous, Baya, quelqu'un que vous connaissez, c'est le papa de Pierre Dibe, donc Michel Dibe, qui est neurologue et qui a eu la Légion d'honneur parce qu'il est neurologue.
Mais là, pour le coup, c'est logique.
Bah non. J'adore Michel, vraiment c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, j'ai beaucoup de sympathie et on l'embrasse.
On lui enverra l'excuse.
Et il écoute souvent l'émission. Je ne comprends pas qu'il ait la Légion d'honneur, encore une fois, vous l'avez
dit.
Et pourquoi il aurait la Légion d'honneur? Il est neurologue, c'est très bien neurologue, c'est un très beau métier.
Vous savez le nombre d'études qu'il faut faire, vous savez le nombre de vies qu'il sauve.
Merci.
Très bien.
Merci.
Et alors,
c'est un service rendu à la nation.
Pour vous,
c'est aussi un sacrifice d'être. Mais bien sûr, c'est un sacrifice de vie d'être neurologue.
Il y a une hiérarchie, elle a raison, il y a une hiérarchie entre des parfums, excuse-moi, et sauver des vies.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, mais je crois que c'est parce que mon grand-père l'avait, qui était médecin, il a fait 40 ans. avant de... Mon grand-père l'a eu. Il a fait 40 ans de médecine. Il a sauvé des tonnes et des tonnes de gens. Je suis désolé. Bon, il la donne
quand
pas à tout le monde.
On voit le résultat avec
ouais,
vous.
Bah oui, on voit le résultat.
Écoutez, bravo à votre grand-père. Bah oui. Mais cependant, je lui aurais jamais donné la Légion d'honneur.
Mais je suis désolé.
Je suis d'accord avec vous. Il y a une hiérarchie. Et moi, sauf que en fait, la barre, je la place beaucoup plus haut que tout ça.
Donc on la donne comme militaire. On la donne comme militaire aux gens qui sauvent des gens.
On la donne effectivement à des militaires, à des services rendus à la nation pour de vrai. C'est-à-dire ceux qui ont permis notamment la promotion de la France à travers le monde, à faire rayonner la culture française ou autre.
Mais ça, c'est pas la Légion d'honneur.
Nathalie Portman, je comprends pas qu'elle l'est.
C'est parce qu'elle vit en France.
Et alors ?
Oui, bah, voilà, c'est pas... Bah, je ça, pour le coup,
c'est aussi en France. Je vous annonce, je sais pas s'il est là, mais je pense que Georges Clooney va bientôt l'avoir, vu qu'il vit en France.
Superbe. Pourquoi faire ?
Parce qu'ils font rayonner les États-Unis en France. Ah ouais, c'est génial.
C'est la Légion d'honneur française.
Samba.
Non, j'ai beaucoup de mal avec cette Légion d'honneur où c'est devenu un espèce de bonbon qu'on attribue à ceux qui ont été gentils et sympathiques.
D'ailleurs, je comprends pas parce qu'il y a plusieurs types de médailles. Normalement, il y a les arts et les lettres, il y en a plusieurs. Pourquoi on donne celle-là ?
Serge Haroche, que je ne connais pas, qui doit être très sympathique, récompensé de la Grande Croix, la plus haute dignité.
C'est qu'on lui a donné les 5 grades avant.
C'est dingue.
Bah oui, c'est ça.
Mais en fait, faut quand même se placer aujourd'hui. On est dans un contexte économique et social qui est assez compliqué. Je pense qu'un Français qui est en grande précarité et qui regarde la télé aujourd'hui et qui voit effectivement des légions d'honneur distribuées comme des bonbons avec toutes ces cérémonies assez pompeuses, il se sent insulté parce que lui, en fait, il travaille, il va à l'usine tous les matins. Il a le dos cassé, il se tue pour la France aussi, à sa manière. Et il ne sera jamais récompensé, il n'aura jamais ce genre de cérémonie pompeuse qu'aura Nathalie Portman, je ne sais pour quelle raison, ni d'ailleurs ce fabricant de parfums. Hein. Pourquoi il l'aurait et pas Jacques ou Hervé qui va à l'usine tous les matins et qui se crève la santé.
Il n'y en a plus beaucoup des usines, donc on ne pourra pas trop les donner.
Il n'y a plus beaucoup de Jacques et Hervé en France.
Fast and Furious d'avoir pas changé.
Eh bien, pour rebondir sur ce que disait Armand, vous avez vu le scandale du Conseil économique et social environnemental qui voulait organiser un cocktail pour fêter le vote de la fin de vie.
Oui.
Voilà. La caste, l'entre-soi, ça continue. Mais ces gens-là sont...
Vous voulez qu'on aille sur le vote de la fin de vie ?
Vous vouliez nous en parler.
Ah oui,
on a reçu les résultats au même moment et on s'est tout de suite appelé.
Oui, je suis scandalisé. En fait qu'on légitime. J'ai trouvé un argument de François-Xavier Bellamy très juste. Des gens qui n'ont pas accès, ce qu'on appelle les fameux déserts médicaux. Donc on a des déserts médicaux, on a plein de problèmes aujourd'hui en termes de santé publique, et la priorité du gouvernement, c'est de légiférer sur la fin de vie.
Non, attendez,
il dit quelque chose de très juste.
Il dit que ceux
qui n'auront pas accès justement aux soins, alors vont choisir justement la fin de vie. Je trouve que c'est un argument très juste.
On a simplement légiféré le suicide assisté. Et d'ailleurs, le terme euthanasie n'est pas utilisé. Je suis désolée, moi je suis totalement opposée à cette loi.
C'est des mots.
Comment ?
Non, mais c'est des mots.
Non, c'est pas des mots. C'est pas des mots.
Non, c'est pas des mots. Merci, Elliot. C'est pas des mots.
Mais attendez, comment vous dites, je suis totalement opposé, c'est-à-dire ?
Mais je suis totalement opposé à cette loi.
Oui, on est.
Sur l'ensemble.
Sur l'ensemble de cette loi.
Et même le principe, du coup.
Moi, non.
Alors, vous pouvez pas dans un pays, je suis désolé, je vais encore...
De tradition chrétienne,
tuer des gens. On tue des gens. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage sur cette mère qui a perdu sa fille. Elle a porté plainte, etc. pour essayer de faire en sorte qu'on ne tue pas sa fille, parce que sa fille était dépressive en Espagne, et ils l'ont quand même tuée. Voilà, on aide tous les gens. Maintenant, le service médical est fait pour soigner les gens, pas pour les tuer.
Sur décision de sa fille.
Elle n'était pas dans son état normal.
Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de dépressif. On a tous eu des coups de mou dans notre vie. Et il y en a qui en ont des plus grands. Mais ce n'est pas une raison pour les tuer. Un médecin, c'est fait pour soigner, pas pour tuer. Et d'ailleurs, il y a une tribune qui a été signée par de nombreux médecins qui ne souhaitent pas administrer cette piqûre pour tuer. Et... David, vous m'applaudissez, donc vous avez le droit à la parole.
Oui, non, je voulais savoir pourquoi vous n'étiez pas
d'accord avec moi. Vous sortez du studio.
Ouais. Pourquoi vous n'étiez pas d'accord avec moi?
Ah, vous êtes d'accord avec moi?
Oui, mais tout à l'heure vous avez dit non, vous.
Non, mais c'est les arguments qu'elle est
pas.
Mais
parce que vous partez loin.
Vous partez loin.
Non, c'est pas vrai. Non, mais il a raison. Je suis désolé. Des gens qui vont être dans la souffrance et qui sont dans des déserts médicaux, ils ont il y a ça comme solution qui est rapide.
Comme d'habitude. Non, oui. Avant les déserts médicaux.
Attendez, Elliot, laissez parler David.
Non, mais on va sur l'extrême à chaque fois.
Non, c'est pas l'extrême.
Elliot, vous êtes quelqu'un de déconnecté aussi. Vous êtes quelqu'un de déconnecté. Voilà. Je suis désolé, mais des gens, mais parce que vous savez pas ce que des gens qui ont des maisons médicales mais sans praticien se disent, ils sont comme. Et comme Baya l'a très bien dit, parfois ils sont mal, ils sont tellement pas bien qu'ils se disent « la solution la plus simple, c'est que j'aille à l'hôpital, je me fasse... » Voilà.
Je suis d'accord, mais le désert médical, le petit désert médical, avant même qu'il soit touché par ça, en vrai, il y a des grandes villes où le problème
de l'accès aux soins,
Et là, et c'est déjà problématique. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont aux urgences, dans des grandes villes, hein, avec des hôpitaux, avec des urgences, et ça tourne, et ainsi de suite. Il y a des problèmes déjà dans les hôpitaux. C'est-à-dire que vous allez aux urgences, vous attendez 9 heures, ça s'aggrave. Votre cas s'aggrave. Et du coup, on va arriver à un stade où vous allez aller aux urgences, vous allez attendre 9 heures, vous allez avoir un stade qui est, bah, du coup, à la limite du décès, et on va vous dire... Bon, bah voilà, on vous propose ça parce que là, bah, vous avez trop attendu, merci, au revoir.
On est d'accord.
Bah voilà.
Oui, mais vous êtes d'accord, pourquoi vous criez-tu ?
Mais parce que arrêtons d'aller voir déjà dans les petits trucs. Regardez déjà dans les grandes villes, il y a ça comme problème.
C'est une loi de bourgeois.
Bah oui, c'est une loi de bourgeois. C'est une loi pour. Je vais le redire comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez le Covid qui a tué beaucoup de vieux. On refait des lois qui vont tuer encore beaucoup de vieux parce qu'on ne peut pas régler le problème de cette retraite qui coûte une blinde. Moi, je pense que c'est ça. Et j'en suis sûr. C'est toujours la même chose. On trouve des alternatives pour limiter le nombre de la population.
Ça,
bah oui, c'est complotiste peut-être, mais il y a un moment, il faut regarder les choses en face.
Et là, t'as des informations qu'on n'a pas.
Bah non, mais c'est vrai, on va le proposer à des gens. Il y a des soins palliatifs. Qu'on augmente le nombre de soins, de maisons de soins palliatifs. Non, je suis pas naïf. C'est juste que dans un moment.
Le corps médical ne veut plus soigner ces personnes âgées.
Bah oui, bah donc ils préfèrent les tuer.
Bah oui.
Bah qui va toucher leur pension de retraite.
Maintenant, légifère.
Qui va toucher leur pension de retraite ?
On a le droit de toucher la demi-part.
Hein.
Vous allez nous le dire.
Bah, l'État.
Les amis, j'ai une question. Baya m'a répondu, mais vous deux, vous êtes contre le principe même de cette loi, c'est-à-dire en termes de moralité et autres,
ah oui.
Ou c'est la loi en l'État qui vous pose problème ?
Non, c'est le concept, c'est la philosophie.
C'est
concept,
la loi, la manière dont elle a été faite.
Mais attendez, on n'est pas là pour faire... Armand, vous n'êtes pas présentateur, donc vous n'avez pas posé de questions.
J'ai osé reprendre...
Vous allez simplement nous donner votre avis.
Moi, je tiens à saluer, et j'ai beaucoup aimé l'intervention de Philippe Juvin, qui est député Les Républicains, et qui a parlé de cette loi, et effectivement...
Qui n'est pas que député, d'ailleurs.
C'est un ami aussi,
qui est
qui est
chef des urgences, effectivement, aussi, bien sûr. Et qui a eu une déclaration qui était assez juste sur le contenu.
Qui a beaucoup fait réagir.
Moi, à l'inverse, je ne suis pas totalement opposé au principe, contrairement à vous deux, malheureusement, de vrai. Hein. Je ne suis pas totalement opposé au principe. Par contre, la loi en elle-même, effectivement, elle est complètement discriminante. Elle est socialement complètement discriminante. On envoie les pauvres à la mort parce qu'en fait, les pauvres n'ont pas les moyens de se soigner. La rapidité d'exécution me choque aussi.
10 jours.
Ouais, c'est ça. Et puis en 15 jours, on est, j'allais dire exécuté, mais on meurt dans les 15 jours qui suivent la demande. C'est assez précipité. Vous l'avez dit, Bayard, effectivement, on a tous, je pense, eu des coups de déprime, des déceptions amoureuses ou autres.
Entièrement d'accord.
Qui enlèvent parfois la rationalité qu'on peut avoir au quotidien. Je pense que c'est beaucoup trop rapide et on se précipite effectivement dans une solution de confort qui est la mort immédiate. En l'occurrence, le suicide assisté. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Je ne suis pas, encore une fois, opposé au principe même. Je pense qu'il y a matière à débattre sur la liberté, notamment, de choisir.
Vous avez vu comme c'est passé quand même inaperçu.
Ouais.
C'est passé inaperçu.
Il passe toujours ce genre
juillet,
de loi quand les gens sont en vacances.
15 juillet.
Attendez, il y a deux...
15 juillet, exactement.
Juste.
Pourquoi ça passe inaperçu, d'après vous ?
Le timing.
Mais à part ce timing, vous avez vu quand même que bon, ça a été voté mercredi. Cette loi, deux jours avant, qu'est-ce qu'a dit le Premier ministre ? On passera par le Conseil constitutionnel pour régler les trucs. Donc, quoi qu'il, cette loi, avant qu'elle passe, parce que de toute façon, ils savaient qu'elle n'allait pas passer, donc ils l'ont mis dans un moment où on leur a dit « Vous allez partir en vacances dans pas longtemps », mais elle n'est pas passée. C'est le Conseil constitutionnel qui va la retoquer, on le sait tous.
Oui, voilà.
Elle est passée là, elle a été votée parce que ça leur fait plaisir, alors que les sénateurs ne la voulaient pas, comme d'habitude. Et on a le Conseil constitutionnel qui va arriver, qui va dire « Bah ça, on enlève, ça, on enlève, ça, on enlève, ça, on enlève, ça, on enlève. Bon, bah, il reste plus que deux articles, c'est très bien. Allez, vous mettez ça, ça va aller très vite, et puis vous changez le temps, et puis basta. »
Eliette, vous allez dans le sens de ma chronique de tout à l'heure, donc.
Oui, mais je comprends pas, du coup, ça vous arrange ?
Bah, ça va pas passer.
Bah,
mais
non,
mais du coup,
ça m'arrange pas.
Moi, ce qui m'a choqué, alors je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais c'est qu'il y a des députés RN qui ont voté pour.
Incompréhensible.
Pourquoi ? Pourquoi incompréhensible ?
Ça se comprend.
Non, c'est intéressant, pourquoi on comprend ça ?
Parce que, alors, à Bruxelles, ils vont voter contre la fin des thérapies de conversion, parce qu'ils vous disent, j'ai écouté Jean-Philippe Tanguy qui disait, parce que si on dévolue ce genre de pouvoir à l'Union européenne, eh ben, ils vont toucher tous les sujets de société. Et ben, justement, là, c'est un sujet de société au Parlement européen, à l'Assemblée nationale, vote contre, c'est-à-dire que là,
c'est pas incohérent du coup. Parce
non,
qu'il a raison,
mais ce qu'il voulait dire, c'est que ok, ça veut dire qu'on va dévoluer encore quelque chose à la Commission européenne. Là, justement, on a l'occasion en France de pouvoir en débattre et la majorité de son groupe est contre. Non. Oui, bah non, mais il y a eu. Non mais d'accord, serait, d'accord. La majorité de son groupe,
quelque chose à l'Assemblée,
et... la majorité de son groupe est contre. Il se serait honoré à voter contre aussi.
Et ah bah... vous avez compris le ton de l'émission. Elliot est révolutionnaire.
Mais oui, vraiment. Elliot aujourd'hui, c'est révolutionnaire.
Mais non, mais c'est dramatique. C'est dramatique. On a commencé en disant que les sénateurs ne bossaient pas
ou qu'ils députés.
Oui, ouais. Qu'ils bossaient sur des choses qui les concernaient pas. Puis au final, on arrive. Ils ont voté des choses, mais qui vont être défaites, comme toutes les lois qu'ils ont votées sous Macron Elliot, par le Conseil constitutionnel.
C'est vraiment le mot.
Je tiens juste à dire que là, on est en session extraordinaire, que on leur a donné quelque chose parce que médiatiquement, il fallait répondre à la petite Liana. Donc là, il y a une loi pour la protection de l'enfant.
Mais c'est très bien ça.
Il fallait l'euthanasie. Mais non, mais ce que je veux te dire, c'est que quoi qu'il arrive, voilà. Ça n'aura pas d'effectivité, Elliot. C'est du vent, c'est de la com, c'est du marketing.
Excuse-moi, hein, mais je suis désolé. Entre l'affaire de la petite Liana, qui a imposé qu'on refasse tout le circuit, qu'on reprenne toutes les enquêtes et toutes les affaires là, sur un mois, et qui va aboutir sur une loi, potentiellement bien ou pas, on ne le sait pas encore, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais quand on va voir ce que ça va donner, versus une loi qui est débattue à moitié parce qu'il y a 200 amendements, que... ça plaît à personne parce qu'on sait qu'on n'est même pas, on est sur 2 jours pour avoir un droit de décision alors qu'en Belgique ils en ont 15, que c'est fait n'importe comment, qu'il y a des petites structures qui accueillent des malades qui vont devoir fermer parce qu'elles n'autorisent pas, parce que par exemple les couvents ou les bonnes sœurs accueillent des gens malades, ne vont pas prédire ça, ne vont pas le donner, ne vont pas le prescrire.
Et donc,
on le sait tous. Donc en fait, cette loi, elle est faite, elle a ni queue ni tête. On va la mettre, on l'a votée, elle va être déconstruite. Donc il y a un moment, il y a des lois qui sont importantes et il y a des lois qui ne sont pas importantes. Celle-là, elle n'est pas importante, c'était juste pour faire plaisir à Macron, on le sait tous, basta.
Alors, ça, je peux vous rejoindre là-dessus, c'est que les lois existent déjà en fait. Légiférer pour légiférer, ajouter des lois pour ajouter des lois, ça n'a pas de sens.
Je suis entièrement
d'accord. Ce qui manque, c'est de la volonté politique plus que des lois. Les lois existent déjà. Vraiment, pour le coup.
Et c'est ce qui se passe avec Liana, parce que Liana, il faut dire que c'est pas là en quelques semaines qu'on va régler un problème de juridiction. C'était le parquet de Hoche là, qui a dû envoyer des pièces jointes par courrier parce que le logiciel ne permettait pas d'envoyer une pièce jointe qui était lourde. Enfin, c'est ridicule. Donc le problème est structurel, c'est un truc qu'il faut... C'est afuera, là, il faut prendre une tronçonneuse et prendre le code de procédure pénale et tout réformer. Ce que,
vous appréciez Javier Milei ?
Oui.
Vous êtes sur sa ligne ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que c'est quelqu'un qui a du tempérament et qui a compris qu'en fait, c'est pas avec une loi ou avec un décret ou un petit truc, un pansement sur des jambes de bois. Il a compris en fait qu'il fallait tout réviser du sol au plafond.
Alors voilà. Vous avez des choses à dire.
Non, mais parce que c'est comme ça que ça va marcher. Le seul qui le dit, c'est Zemmour aussi, bien sûr, et Retailleau, parce que Retailleau a mis les doigts dedans. Il a dit, voilà, je veux sortir un décret, j'ai le Conseil d'État qui m'attaque. La loi, je peux pas parce qu'après, on défère au Conseil constitutionnel. Après, j'ai la CEDH, après, j'ai ceci, j'ai cela. Bon, il a compris, en fait, faut tout réviser.
Et vous avez vu quand même le vice du gouvernement de voter cette loi quand tout le monde est en vacances?
C'est pour éviter la polémique.
C'est quand même fou, hein. Et c'est pas du complotisme
Non,
de dire
c'est
ça,
factuel.
Hein.
Les lois qui sont un peu moralement difficiles à passer passent en général l'été, parce qu'effectivement...
La retraite, c'était pas en été aussi, non?
Ouais. Ouais, voilà. On veut éviter de polémique, on veut éviter des soulèvements populaires, des manifestations et autres.
Ah oui, les gens veulent passer l'été.
Est-ce que vous pensez que le sujet de l'euthanasie est un sujet qui intéresse les Français ou pas du tout?
Non, je pense que c'est une mode. Je pense que c'est comme l'histoire du nucléaire, de Fukushima, etc. Je pense que là, ils sont pour ou contre. Enfin, ils ont un avis là maintenant, mais dans 10 ou 20 ans, ils auront un avis complètement différent.
Pas du tout. Je pense que les Français s'en carre le cul, mais vraiment pour le dire. Là, à ce moment-là, je pense que la priorité, c'est quand même manger déjà, et deux, pouvoir mettre de l'essence, parce que quand on voit que la guerre va repartir et que il y a de l'essence qui va encore monter au-dessus de 2 € et que on n'a pas l'oseille pour le faire, il y a un moment, voilà.
Et là, vous êtes heureux dans votre vie.
Non, je suis très heureux dans ma vie, mais je suis.
Je pense que vous sous-estimez l'importance de mouvements comme la Marche pour la vie et autres.
Mais non, mais c'est...
qui en France quand même font un travail de lobbying.
C'est très bien.
La Marche pour la vie,
c'est très bien. Mais la priorité.
Attendez, on n'entend rien.
Vous voulez en venir, j'ai pas compris.
Les mouvements qui se battent notamment contre l'euthanasie. Il y a un truc qui s'appelle la Marche pour la vie qui se bat justement contre les lois euthanasiques, l'avortement et autres d'autres causes, et qui ont quand même une certaine importance en France, qui ont parfois des mobilisations assez importantes. Je pense que c'est pas des mouvements à sous-estimer. Vous disiez que les Français s'en foutent, je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment une partie de la population qui est sensible à ce genre de sujet, d'où justement le fait de faire passer cette loi en juillet plutôt qu'en septembre ou en octobre.
Mais du coup, cette marche, s'il n'y avait pas eu juste l'évocation de Macron de dire on va faire une loi pour améliorer la fin de vie, pour améliorer tout ça. Vous pensez qu'il y aurait eu cette marche?
Non, mais cette marche, elle existe depuis des années.
C'est un mouvement qui existe depuis des années.
Elle aurait été aussi impactante en ce moment?
Bah, Bah de fait, en fait, dès qu'il y a une cause qui est nationale,
bah oui, mais du coup, la priorité des gens, c'est pas de se nourrir, la sécurité, de pouvoir travailler dignement. On parlait des agriculteurs, de pouvoir sortir.
Mais vous savez, moi, je suis pas d'accord avec vous. Hein. Les Français sont quand même attachés à leur morale.
Bien sûr.
Faut pas croire. Au contraire, hein, vous regardez sur les réseaux sociaux, rien que les stats sur ce genre de sujet est quand même élevé. Hein. C'est comme le sujet de l'avortement. Aujourd'hui, si vous êtes contre, vous pouvez pas le dire, parce que justement, il y a des mouvements sociaux et même des citoyens français qui sont totalement opposés à l'idée d'un débat autour de ces sujets.
Non, moi je suis d'accord avec Elliot. C'est des sujets de caste, de bourgeois, Paris, Lyon, Marseille, enfin, c'est urbain, ça s'arrête là. Enfin, les gens, il a raison, ils ont besoin de faire leur plein, de faire leurs courses et de pouvoir vivre dignement.
C'est du populisme là.
Mais je ne sais pas du populisme, mais c'est du quotidien. Faut bien qu'ils aient de quoi dans le ventre, de quoi réfléchir. Je suis désolé.
Là, n'empêche pas l'autre. Vous savez, on peut se battre pour plusieurs causes à la fois. On n'est pas obligé de se battre pour le pouvoir d'achat et totalement oublier les questions
ils
sociétales.
Ont pas de quoi
on peut
vivre.
Aussi parfois se battre sur des questions sociétales. Non, dans ce cas-là, en fait, déléguer tout. En fait, depuis tout à l'heure, vous me dites oui, la politique, ça marche pas, machin. Bah, dans ce cas-là, déléguer absolument tout votre pouvoir sur le côté sociétal. Laissez totalement légiférer l'Assemblée et ne vous mêlez absolument plus de tout ce qui est décision sociétale et restez sur l'économie.
Non, vous faites semblant pas comprendre, je parle de hiérarchie, je parle de priorité.
Justement, si. Dans ce cas-là, faites votre priorité, déléguez
tout ce qui est ma priorité. Non, je délègue pas. Il y a une priorité, je m'occupe de tout, mais il y a des priorités.
Donc je m'occupe de tout.
Vous êtes d'accord avec David ?
Je suis d'accord avec David, bien sûr. Il y a des priorités. De toute façon, on va finir par mourir vu qu'on peut pas, on peut plus payer à bouffer. On veut nous tuer directement. Donc il y a un moment, on
est dépressif, il va prendre rendez-vous.
Mais non, mais c'est la vérité. Tu peux pas sortir.
Vous voyez que cet individu n'a pas de problème pour se nourrir.
Pour rebondir sur ce qu'il disait Armand, l'histoire de la marche, c'est comment ça s'appelle ?
La marche pour la vie.
Vous connaissez pas la marche pour la vie ? Allez,
sur Instagram. Il a envie de mourir.
Non, mais vous m'emmènerez. J'aimerais bien connaître.
C'est intéressant.
Dire que voilà, il y a ces mouvements là qui se créent parallèles à la représentation nationale, puisque nos parlementaires ne servent plus à rien, le pouvoir ne sert plus à rien. Je voulais parler de l'initiative d'Alexandre Jardin, qui représente les gueux.
Je travaille chez Truffaut, non ?
Les gueux, non ?
Exactement, les gueux.
Très beau mouvement.
Voilà. Bah, oui. C'est pour dire que, encore une fois, voilà, nos parlementaires, le pouvoir, toute cette représentation-là est déconnectée, ne sert plus à rien, et qu'il faut attendre que des gens de la société civile, ou appelez ça comme vous voulez, mais je veux dire des gens en dehors du pouvoir, en dehors du système, voilà, court-circuit pour vraiment faire remonter la volonté populaire. Et sur son site, voilà, il y a des référendums qui sont organisés sur la suppression des C2E, la suppression des ZFE, la suppression des charges sociales, enfin des choses qui sont concrètes pour le pouvoir d'achat. C'est concret, ça veut dire là, c'est tout de suite les factures d'électricité, le caddie, etc.
Il y a des suppressions d'acronymes aussi.
Elliot, un dernier mot.
Bon, j'ai pas de dernier mot, enfin, c'est dramatique. On se focalise sur des choses. La fin de vie, c'est quelque chose où tout le monde a sa morale et c'est problématique que l'État vienne se mettre en décisionnaire. Donc, pour moi, c'est pas la priorité, ni du moment, ni du quinquennat, il a eu 10 ans. Pourquoi il vient le faire à la fin ? Il y a un moment, il aurait pu le faire bien avant qu'il y ait le Covid, avant qu'il y ait ces choses-là. À chaque fois, la temporalité n'est pas bonne. À chaque fois, on a des problèmes à droite, à gauche, et on est là. Ah ben, on va voter ça, c'est génial. Non, je suis désolé, c'est pas le moment.
N'oubliez jamais, 10 ans, que 4 lois effectives. Emmanuel Macron.
Armand, dernier mot ?
Je pense que les débats sociétaux suivent le courant aussi de l'évolution de la société. Cette loi sur la fin de vie n'était un peu inimaginable, je pense, il y a encore 10 ans ou 15 ans. Elle le devient de plus en plus au fil du temps parce que les consciences évoluent et que la prise de conscience sur certaines normes sociales évolue. Donc je pense pas qu'il y ait un truc complotiste de temporalité qui aurait été choisi. Après, là où je reste en total désaccord jusqu'au bout avec vous, c'est que pour vous, elle n'est peut-être pas prioritaire cette loi, peut-être qu'elle n'est pas prioritaire pour la majorité des Français, mais je pense que c'est un combat que certains veulent mener et que je les encourage dans leur combat.
Chers auditeurs, merci d'avoir suivi On ne va pas se mentir et on se retrouve la semaine prochaine, samedi de 15h30 à 17h.
On ne va pas se mentir avec Baya Carla et sa bande tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.